Donc, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, le premier cours, ça sera sur la croyance. Et comme vous le savez, toujours le premier cours, c'est un cours d'introduction. Tout d'abord, avant de parler de la question de la croyance chez nous, les musulmans, parce que on l'appelle la croyance, appelez-la la théologie, appelez-la tawhid chez les musulmans, elle a plusieurs définitions, c'est-à-dire plusieurs synonymes, pardon. Donc, ça s'appelle la croyance, ça s'appelle la théologie, ça s'appelle usul ad-din, ça s'appelle ilm al-kalam, je vais écrire tous ces synonymes. Donc, si vous trouvez le mot croyance veut dire usul ad-din, d'accord, les fondements de la croyance ou de la religion, chez un grand imam tel que l'imam Abu Hanifa, il appelle ça al-fiqh al-akbar, le grand fiqh, d'accord. Donc tout ça, c'est des définitions pour parler de la croyance chez nous les musulmans. Et quand on dit croyance, on va parler, la première des choses, qui est très importante, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est Allah? C'est très important. Quels sont ses attributs? Quels sont les attributs dont on doit qualifier Allah subhanahu wa ta'ala? Et quels sont les attributs dont on n'a pas le droit de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qui est autorisé? Et la même chose pour les prophètes. Qui sont les prophètes? Pourquoi Allah nous a envoyé des prophètes? Quelles sont leurs qualités? Quelles sont les choses dont on n'a pas le droit de qualifier les prophètes? Un prophète, normalement, est censé être un modèle qu'on doit suivre. C'est un modèle, on doit être comme lui, il nous donne l'exemple. Alors quand on voit un prophète clochard qui boit de l'alcool, donc c'est directement, logiquement, par la raison, ce n'est pas un modèle. Il y a des gens qui sont, qui ne boivent pas de l'alcool, ils sont mieux que lui. Donc c'est pour ça là, quand on voit des films, je suis désolé, hein, style les 10 commandements ou ce que vous voulez, avec des prophètes qui boivent de l'alcool et qui couchent avec n'importe qui, machin, on se demande, ils sont venus donner des leçons à qui? Donc avant de donner des leçons, il faut être un modèle. Donc les prophètes, ce sont les gens les plus purs, les plus qualifiés à avoir de très très bonnes qualités, voire ils n'ont pas... Ils ne commettent pas d'erreurs, sauf, entre guillemets, on va en parler dans la législation, ils ne commettent pas d'erreurs, hein, et ils ne commettent pas de péché, et ils sont par essence et par naissance de bonnes croyances. Donc c'est pas, on ne va pas trouver un prophète qui a adoré des statues, hop, ensuite la révélation, il va adorer Allah. Non. D'accord. Donc on va parler de tout cela, on va parler aussi du monde de l'au-delà. C'est quoi le monde de l'au-delà? Quelles sont les choses dont un musulman doit croire? Le monde de l'au-delà, tel que le paradis, l'enfer, la mort, qu'est-ce que c'est que la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce que c'est que la balance? Qu'est-ce que c'est que le jugement dernier? Donc tout cela, Inch'Allah, on va en parler. Alors, dans la croyance musulmane, il est très important, je vais parler aussi de quelques groupes, quelques sectes qui ont existé, pourquoi il y a la croyance, il y a la science de la croyance. Comment les sciences se sont apparues? Tout ça, c'est des points importants pour comprendre... pourquoi on en est arrivé à parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont tels, qui sont les grandes références dans la science de la croyance chez nous musulmans, et quels sont les grands ouvrages de référence. Donc tout ça c'est très important. Dans un monde où aujourd'hui, quand vous rentrez dans les librairies, des bibliothèques, je vous le dis, que ce soit des livres en arabe ou en français, donc il faut se méfier. Comment on dit, le proverbe dit, c'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or, c'est ça. Et surtout aujourd'hui, on a beaucoup de livres, mashallah, d'islam qui brillent. Mais à l'intérieur, il faut faire attention. Donc on va parler de tout cela, des ouvrages de référence qui sont reconnus par la Oumma, par les grands savants, par toutes les grandes universités islamiques du monde musulman, surtout à travers notre histoire. On a des ouvrages intéressants contemporains, ils ne sont pas nombreux, mais on a des livres de référence, qui sont très importants. Et bien sûr, on insistera sur la question de la raison. C'est-à-dire, on n'est pas là pour gober n'importe quoi. Le premier verset qui a été révélé, c'est « Li Iqra ». Donc c'est une religion de science, de connaissance et de savoir. Et on n'a pas de questions bêtes en islam. Donc toutes les questions, elles sont les bienvenues, voire il faut poser des questions. Sauf que, il ne faut pas être orgueilleux, il faut être modeste, essayer de comprendre l'autre, même si je ne suis pas convaincu. Il faut avoir la sagesse de respecter la vie de l'autre. C'est très important. Et des fois, peut-être la personne elle a mal transmis, mais c'est pas parce qu'elle a mal transmis qu'on va dire non, vous n'avez pas raison, il faut chercher. Même, moi toujours je dis, même dans les cours que je donne, les conférences, etc., allez-y et cherchez, et il n'y a pas de chaise? Non? Il y en a une? D'accord, très bien. Donc il faut toujours chercher et réfléchir et approfondir le savoir et la connaissance. C'est très important. C'est vrai qu'en français, on n'a pas beaucoup de livres, à ma connaissance, à mon humble, à ma limite de savoir, avec le groupe, avec les frères et chouyours avec qui on travaille, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, c'est-à-dire de croyances. Par exemple, si vous me demandez maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme livre, etc., je peux vous donner deux, trois titres. Et des titres, c'est-à-dire avec... Bon, il y a le livre de Cheikh Yaqoubi qui, il y a 15-20 pages, c'est un petit livre. Il y a le livre de Cheikh Hassan Ayoub avec une petite remarque sur quelques passages. Au moins, il y a le livre de l'imam Al-Juwayni qui s'appelle Al-Irshad. Al-Shamil ou Al-Irshad, parce qu'il a deux, Al-Irshad, voilà, qui a été traduit, mais c'est un livre très ancien. Donc, c'est-à-dire il a été traduit, il y a une bonne traduction, avec vérification de la traduction de Chabla Peno. Mais, c'est, comme c'est un livre très ancien, donc il a besoin d'actualisation. Tafad Valachi. Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous remarquez, je parlerai beaucoup d'Allah. Et j'utiliserai rarement le mot Dieu, exprès. Beaucoup de musulmans, quand ils parlent, même dans les traductions coraniques, Dieu a dit, Dieu ceci, de cela. Moi, je préfère de parler. Allah, il faut qualifier les choses. Parce que quand on dit Dieu, pour un chrétien, un juif, un bouddhiste, tout ce que vous voulez, Dieu, il n'y a pas de problème, hein, oui, il accepte. Mais si tu lui dis Allah, il dit non, attends. Mais il faut qualifier la chose. De quel créateur parle-t-on? Donc, Dieu, Dios, vient du latin, etc. Le mot, il est très important. D'accord? Quand on dit Allah, c'est clair et net, on parle de Dieu. Une fois, avec un prêtre, il me dit, c'est pas celui qui te donne le souffle tous les matins, qui me donne à moi. Je dis, non, c'est pas le même. Ah, il était choqué. Il était choqué. Je dis, comment ça, c'est pas le même? Ah, je dis, c'est pas le même. Je dis, définis-moi ton Dieu qui te donne le souffle tous les jours, machin. Il commence à définir, je dis, c'est pas le mien. C'est pas possible. Le tien, il est faible, il s'assoit, il dort, on l'a flagellé, on l'a traîné. Je dis, mais c'est pas possible. Il s'est fait homme, ensuite il est rentré, il est mort 3 jours, ensuite on ne sait pas où est-ce qu'il est, rentré en enfer, on est allé secourir. Je dis, moi, je ne suis pas d'accord. C'est Dieu, mais je respecte ta croyance. Mais il faut qualifier de quel créateur parle-t-on. C'est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la croyance musulmane se donne, c'est-à-dire c'est tout ce qui est... La croyance, c'est le monde de l'au-delà. On donne le texte, on démarre par le texte. On ne peut pas inventer, nous, par la raison. La croyance, par contre, la raison, elle vient soutenir le texte. Quand je dis le texte, je parle des textes coraniques et la sunna du prophète. La sunna, c'est-à-dire tout ce que le prophète a dit, ou bien a fait, ou bien a autorisé. Écrivez ça. Qu'est-ce que c'est que la sunna? La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous entendez beaucoup parler maintenant, la sunna, la sunna, la sunna, hein? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou a fait, ou a autorisé. C'est très important. Pourquoi a autorisé? Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a autorisé. Tout ce qu'il a dit, d'accord, le prophète a dit, etc. C'est clair et net. Ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il y a beaucoup de textes qui nous ont rapportés par ses compagnons. Ils ont vu le prophète faire des choses, mais il ne les a pas dit. Comment prier? Le prophète, il n'a pas dit prier ceci, cela. Il a fait, sallu kamara et tumuni osalli, prier comme vous me voyez en train de prier. D'accord? Ce sont les compagnons qui nous ont rapporté, voilà le prophète comment il priait, etc. Donc tout ce qu'il fait, c'est une sunna. Donc nous devons faire. Aussi, tout ce qu'il a autorisé. Un des compagnons fait quelque chose devant le prophète, et le prophète ne lui interdit pas. Ou bien il ne dit rien du tout. Ça c'est aussi, c'est considéré comme sunna. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait des choses, si c'était des choses contraires à l'islam, le prophète l'aurait corrigé. Puisqu'il ne le corrige pas, donc il est d'accord. Donc c'est considéré comme sunna aussi. Sunna al-qawliya, al-fi'liya, al-taqririya. D'accord? Ça c'est la définition de la sunna selon les spécialistes de la science du hadith. Bon. Donc on a dit, dans la croyance musulmane, quand on parle de croyance, il faut argumenter avec, ramener le texte, le verset, selon la compréhension des savants, pas selon ma compréhension ou la tienne ou celui, ou bien de celui. Non, il faut la compréhension des savants de la Ummah. On n'a pas le droit d'interpréter ou donner des explications à des textes aussi pointus, aussi forts en langue arabe, si on n'est pas, on n'a pas le niveau des savants. Ce sont les savants qui viennent nous commenter les textes coraniques, aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, si ces savants-là, chacun sa spécialité, il faudrait que ce soit des savants reconnus par des sommités de science. Donc on va parler de tout cela. Donc, on rapporte le texte, voilà Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au Coran al-Karim, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne va pas se limiter à cela, il faut argumenter cela par la raison. Donc vous voyez que la raison, elle vient pour soutenir le texte et pas le contraire. Parce que vous avez un groupe qui a existé, une secte musulmane qui a existé, ensuite elle a disparu pendant des siècles, et ça fait 10-15 ans, elle revient, ça s'appelle les Mu'tazilites. Donc on argumente. Les Mu'tazilites, ils ont fait le contraire. Les Mu'tazilites, ils ont dit, la sacralisation, ils ont sacralisé la raison. D'accord? Ils ont sacralisé la raison. C'est-à-dire qu'on arrive à la croyance, tout d'abord à partir de la raison, ensuite on ramène le texte pour qu'il soit d'accord avec la raison. Ce qui fait qu'ils ont donné des interprétations comme ils veulent afin que le texte s'accorde à la raison. La raison a ses limites. Même les grands penseurs, les grands philosophes, ils disent cela. D'accord? Elle est limitée, la raison. Hein? Si la raison n'était pas limitée, nous ne serons pas dans les crises sociales, économiques, tout ce que vous voulez aujourd'hui, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quoi? C'est la production de l'homme, du point de vue économique, sociologique, philosophique, etc. Si l'homme était si intelligent, comme disait un grand cheikh, il nous dit, oh, cet homme qui est arrivé à marcher sur la Lune, mais il marche pas très bien sur Terre. Hein. Donc, on voit comment il marche sur Terre, c'est-à-dire la gestion de la cité, comment dire, la gestion de l'homme sur Terre, que ce soit du point de vue politique, géopolitique, stratégique, économique, militaire, communication, on voit que des dégâts. Il y a des bonnes choses, il y a des belles choses. On a des hôpitaux, on a de la science, etc. Mais on a des crises, on a des gens qui souffrent, on a des guerres. Donc la pensée de l'homme, elle peut dériver, elle peut nous amener aussi dans des graves situations. Donc la raison, elle a ses limites. Il faut qu'elle soit guidée, il faut qu'elle soit orientée. Sinon, elle peut dire n'importe quoi. Taïb. Donc les Mu'tazilites, ils ont sacralisé la raison, ils ont dit la croyance commence par la raison, ensuite le texte, on va l'adapter à la raison. Or, chez les sunnites, hein, nous sommes les sunnites, les quatre grandes écoles de jurisprudence, ce sont les sunnites. Donc vous avez l'école hanafite, les quatre grandes écoles sunnites. Il y a quatre grandes écoles sunnites, l'école de jurisprudence, à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez l'école hanafite, la première. Ils ont tous existé au même temps, depuis la fin du deuxième siècle, ils existent jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont gardé l'architecture, si vous voulez, protégée et fondée et donnée toute la jurisprudence musulmane jusqu'à aujourd'hui. Il y a quatre grandes écoles. On va parler pourquoi il y en a quatre, pourquoi il n'y a pas un, puisque le livre saint est un et la sunna c'est une. Pourquoi il y a quatre écoles? On parlera, Inch'Allah, doucement. Donc il faut, on ne peut pas dire tout en même temps, donc on parlera progressivement de tout cela. Donc, il y a quatre grandes écoles de jurisprudence sunnite. Donc l'école hanafite, qui est fondée par l'imam Abu Hanifa. Donc l'école hanafite qui est fondée par l'imam Abu Hanifa. Notez bien que l'imam Abu Hanifa avait 4000 cheikhs. Donc pour vous dire quel calibre, c'est qui ce cheikh? Il a 4000 cheikhs. Aujourd'hui, les gens, ils ont 2-3 cheikhs, c'est des grands génies. Il ne faut pas le toucher. Alors là, il faut lui libérer le passage. Il y a 2-3 jours. Vous imaginez 4000 cheikhs? 6 parmi eux, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour peser la parole de Abu Hanifa, quand Abu Hanifa dit une chose, il faut réfléchir 2-3, voire 10 fois avant de dire quelque chose. On a combien de cheikhs, nous? On a rencontré combien de cheikhs? Cheikhs au sens propre. 1, 2, 3, peut-être on l'a rencontré une fois, deux fois. Enfin, sérieux. Bon, des jeunes, 17-18 ans, ils viennent me dire, bon, Abu Hanifa l'a dit, mais écoutez, moi, mon frère, tu t'habilles en jean, tu bois du coca, tu prends le métro, etc. D'accord, mais attends, tu as devant toi un calibre qui a 4000 cheikhs. 6, ce sont des compagnons du prophète. C'est-à-dire que ces gens-là ne rigolent pas. Et l'imam Abu Hanifa, croyez-moi, à travers l'histoire de l'humanité, sans parler de la pensée musulmane, on va le qualifier par, peut-être parmi les 5 ou 6 plus intelligents hommes qui ont existé sur Terre. Il est d'une intelligence rare, exceptionnelle. Exceptionnelle. Il faut lire la vie de ces gens-là. C'est l'imam Malik qui le dit. Pas possible. Il dit, Wallahi, si vous êtes devant l'imam Abu Hanifa, et vous voyez qu'un poteau, vous le voyez, que c'est un poteau fait d'argile, il peut, avec l'argumentation de la raison, vous prouver qu'il est fait d'or, et vous allez le croire, tellement il est fort dans l'analyse et l'argumentation rationnelle. Il est d'une intelligence rare. Donc vous avez le premier fondateur de la première école de jurisprudence, l'imam Abu Hanifa, d'où l'école Hanafite. Donc celui qui a fondé les bases et les règles et la méthodologie de jurisprudence de l'école Hanafite. C'est une école qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui a produit des centaines de milliers de savants et qui a des milliers et des milliers d'ouvrages. Et elle a produit des grands imams. On trouve l'école Hanafite actuellement aujourd'hui. Ces écoles-là, elles sont réparties en régions. Donc vous avez l'école Hanafite. Là, normalement, c'est un cours de théologie, mais bon, je parle de jurisprudence, mais c'est pas grave, pour nous soutenir un petit peu. L'école Hanafite, actuellement, vous allez la trouver surtout en Europe. Donc, quand les Ottomans étaient jusqu'à l'Autriche, hein, à un moment donné, ils ont encerclé l'Autriche, tout ça, les Balkans, tout ça, c'est des Ahnaf. Dans toute la région des Balkans, la Bosnie, etc., Bosnie-Herzégovine, et la région de la Serbie, où il y avait des musulmans, le Kosovo, la Turquie, et tout ça, c'est des Hanafites aussi. Vous avez une grande Naam, voilà, des régions de la Tchétchénie, etc. Et vous avez des Ahnaf aussi qu'on peut trouver en Syrie, on peut trouver en Égypte, on peut les trouver aussi en Palestine, on peut les trouver aussi en Asie, c'est-à-dire en Indonésie et en Afghanistan aussi, au Pakistan aussi. Donc toutes ces régions-là, ils suivent l'école Hanafite de jurisprudence. D'accord. On va parler après de la croyance, hein, on parle de la jurisprudence. Vous avez la deuxième école, c'est l'école de l'imam Malik, l'école malikite. L'imam Malik, l'école malikite. Alors l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a, quand on dit une école, il faut comprendre, c'est pas, il est venu, il a fait une institution comme ça, il a construit quelque chose, ensuite il a pris des élèves, il a dit non. C'est quelqu'un que toutes les autorités scientifiques de son époque reconnaissent sa valeur scientifique, qu'il est irréprochable. Il a un grand savoir et une connaissance, et vu c'est-à-dire son poids de sens, presque tout le monde vient l'apprendre chez lui, vient le prendre dans ses cours, assiste à ses cours, etc. Et il a une méthodologie de comment, c'est-à-dire les bases et les règles, comment tirer les commandements. C'est pas donné à n'importe qui de tirer les commandements du Coran et de la Sunna. Et comment trouver l'argument quand on a une question qui est posée. Parce que l'argument, détrompez-vous, beaucoup croient que, mon frère, je reçois beaucoup de frères qui pose des questions, voilà, mon frère, j'ai une question, oui, voilà, c'est quoi? Je dis, bon, la réponse, c'est ceci, cela. Tu as un dalil? Le dalil, c'est-à-dire la preuve, un argument. Lui, dans sa tête, automatiquement, il a été formaté que le dalil, c'est le hadith. Et encore, hadith, c'est un enseignant. Il oublie que déjà, l'argument, c'est le verset. Faut commencer déjà par le verset. S'il n'y a pas de verset, c'est le hadith. Ensuite, il n'y a pas, c'est pas toutes les questions qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Les versets sont limités. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont limités. Mais les situations des gens qui évoluent à travers le temps se multiplient. Donc les grands savants ont inventé des règles afin de trouver des arguments qui sont valables à tous les temps. Donc on a l'ijma qui est le consensus des savants. Et on a l'analogie aussi. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que le champagne, si vous posez une question, est-ce que le champagne est illicite ou illicite? Champagne. Champagne, ça. C'est pas du gazeuse, champagne. C'est illicite ou non? Hein? Ah, je vois qu'il pense. Oh, ça. Vous réfléchissez, c'est autorisé ou non? C'est pas une question piège. C'est autorisé ou non? C'est interdit. Mais est-ce qu'il y a un verset qui dit que le champagne c'est interdit? Est-ce qu'il y a un verset? Il n'y a pas de verset. Est-ce qu'il y en a dans la sunna? Il n'y en a pas. Ah, donnez-moi la preuve. C'est l'analogie. Belkiyas. Puisque toute chose qui nous rend ivre, elle est interdite, et le champagne rend ivre, donc toute chose qui rentre dans cette règle-là, c'est par analogie, vous voyez, qui rentre, devient interdite. Donc l'argument, ce n'est pas le verset, ce n'est pas le hadith, c'est l'analogie. Et reconnu par le Coran, c'est-à-dire les savants quand ils ont parlé de l'analogie, parce que ça a été déjà utilisé par le Coran et la Sunna. Ils ne tirent pas ces arguments comme ça. D'accord? Donc on a l'analogie et on n'a pas que ça. Ça, c'est les quatre grands arguments qui sont reconnus par tous les savants. Ensuite, on a toute une, on va dire, une chaîne d'argumentation qui est discutable entre les savants. On va en parler, Inch'Allah, sur les autres arguments. Donc l'argument, le délit, c'est pas que le Coran, c'est pas que le hadith, c'est pas que l'analogie, c'est pas le consensus, mais il y a aussi la tradition des gens qui nous ont précédés, c'est-à-dire Shara Maqablana, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, parce que le Coran, des fois, il fait allusion à quelque chose qui a été fait par les juifs et les chrétiens, il ne l'interdit pas, donc il ne l'autorise. D'accord? Et aussi, on a l'acte des gens de Médine, Amal al-Madina, l'acte des gens de Médine, ce sont les savants, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, il a vécu avec tous les grands califes, c'est-à-dire ils ont vécu à Médine, vous êtes d'accord avec moi? Ils ont vécu à Médine, ça, le khilafa, c'est-à-dire comment traduire le khilafa? Le gouvernorat, ou si vous voulez, le calife musulman était à Médine, il n'était pas à la Mecque. D'accord? Donc tous les grands califes, ils étaient là. Et les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient à Médine. Leurs élèves, ils étaient à Médine. Si on les voit faire une pratique, ils ne l'ont pas ramené comme ça du jour au lendemain, ils se sont rencontrés, allez, on va faire ceci, cela. C'est que si les élèves des sahaba, les compagnons du prophète, ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont appris de leurs chouyours, qui sont les sahaba, les compagnons. Et les compagnons, ils ont appris ça d'où? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous voyez par exemple nos parents, grands-parents qui viennent du Maghreb, de l'Afrique, etc., ils prient comme ça. C'est vrai ou non? Ils prient comme ça. Bon, maintenant ils sont un peu évolués, quand ils voient les gens avec la pression qu'ils font, les jeunes, ils prient comme ça, ils ont peur. Mais en vérité, vous allez en Afrique, vous allez au Maghreb, les vieux, quand ils prient comme ça. Alors, pourquoi ils prient comme ça? Et la majorité des gens aujourd'hui, ou bien dans l'Orient, Moyen-Orient, etc., les gens ils prient comme ça. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont pas inventé une prière. Cette prière-là, elle a son argumentation. Les gens de Médine priaient comme ça. L'argumentation de l'imam Malik, bon, dans l'école malikite, il y a les deux avis. Hein. On prie comme ça et on prie comme ça. Tous les deux sont valables. Mais ceux qui prient comme ça, ils ont une argumentation très très forte. Elle vient pas du vent. C'est que les gens qui étaient à Médine priaient comme ça. C'est Amal Ahl Medina. D'accord? C'est l'acte des gens de Médine. C'est une question de jurisprudence, jurisconsulte. On en parlera un jour, Inch'Allah. Donc, tout cela, pour parler que les imams, leur rôle, c'était de trouver une méthodologie afin de discuter le texte et tirer des commandements. Je sais que le niveau dont je vous parle, il est un peu élevé. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas ce même niveau pendant tout le parcours. Mais cette introduction, elle est très importante. Afin d'arriver pourquoi on fait des ablutions comme ça, etc., pour savoir d'où vient cela. Parce que je pouvais prendre le livre, bon, les premiers jours, les ablutions, c'est cela, machin, on va sortir. Non. D'où vient ça? Qui a dit ça? Comment ils ont tiré? Quels sont les savants qui ont dit ça? À partir de quoi? C'est très important de savoir, parce que, excusez-moi, je suis quelqu'un de très direct, j'aime pas ce qu'on me dit, c'est Omar ibn al-Khattab. Le haq ne m'a laissé aucun ami. C'est-à-dire tellement les gens ils sont dégoûtés d'entendre la vérité. Donc elle est amère, comme on dit. Je suis très direct. Donc vous allez dans les mosquées, la plupart, bon, il y a des mosquées, alhamdoulilah, mais vous allez dans les mosquées, on entend n'importe quoi, il y a du n'importe quoi. Tout le monde est mufti, tout le monde est alim, tout le monde est savant. Donc je préfère dire les choses directes, sans blesser quelqu'un, sans citer les noms, bien sûr, je préfère ne pas citer les noms. Mais il faut faire très attention, c'est pas parce que j'ai une grande barbe, j'ai une grande djellaba, je parle très bien l'arabe, que ce que je dis c'est la science, c'est la vérité qu'il faut suivre. Donc les grandes orientations à suivre, ce sont les orientations de la Oumma à travers tous ces siècles, historiquement et géographiquement, c'est ce que la majorité aujourd'hui de la Oumma du Maroc jusqu'en Inde et de la Turquie jusqu'au fond de l'Afrique suit. Donc géographiquement, historiquement, on a une méthodologie, on a des écoles, on a des avis. Donc celui qui sort de ce consensus, on va dire, il assume sa responsabilité vis-à-vis de la, au moins vis-à-vis de la science. Ça, c'est des choses très importantes. Et on va parler de ces détails à travers tous nos cours. Parce que nous vivons aujourd'hui une certaine, on va dire, dichotomie. C'est-à-dire, ça commence à diviser. Elle est restée branchée sur les quatre écoles pendant tous ces siècles-là. Mais aujourd'hui, malheureusement, on entend des avis qui sortent de l'ordre des quatre écoles. Alors sortir de l'ordre des quatre écoles, il faut avoir la capacité d'avoir au moins le niveau de l'imam Abu Hanifa ou Shafi'i. Parce que les quatre écoles-là, j'ai parlé de l'imam Abu Hanifa, je parlerai de l'imam, je n'ai pas terminé, je parlerai de l'imam Shafi'i Ahmed ibn Hanbal, je en parlerai. Quand on revoit notre histoire et nos grands savants, dans toutes disciplines confondues, tous, ils appartiennent à une des écoles, tous. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, non, moi, je ne suis pas les quatre écoles, je suis le livre et la sunna. Oh, tu as la capacité de suivre le livre et la sunna? Il n'a pas la capacité de suivre la sunna. Il suit quelqu'un qui va lui dire, tiens, c'est ça le livre et la sunna. Donc, tu as ton imam Malik, tu as ton Abu Hanifa. C'est la même chose. Si tu as la capacité, bien, mashallah, tiens le livre. Et voilà la sunna. Et ensuite, la sunna, ce n'est pas le Bukhari musulman, hein. Tu as tous les ouvrages de la sunna qui sont des centaines et des centaines. Des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a toute une science à discuter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as la capacité, bismillah. Donc, quand vous avez des sommités de science, je vais citer quelques noms, Imam Ibn Rushd, Imam Al-Qurtubi, le grand Mufassir, Ibn Wahb, Sahnoun, Ibn Abdelbar, des grandes sommités, qui disent, nous, on est dans l'école malikite. On suit la méthodologie de l'imam Malik, de la façon comment il a basé ses règles de tirer les commandements, on argumente, on est dans son école, mais cela dit, on peut le contredire. C'est pas des gens, attention, nous savons, c'est pas des gens qui sont... Ils remettent en cause la vie du fondateur de l'école. Mais ils restent toujours dans le cadre de l'école. Et leur avis, il peut être d'accord avec l'autre école aussi. Et vous avez l'école Hanafite aussi, tel qu'imam Sarkhasi, l'imam Abu Youssef. D'accord. L'imam Tahaouni. Donc c'est des grandes sommités qui sont dans l'école Hanafite. C'est pas des rigolos. L'imam Abu Yusuf Yaqoub ou Abu Hassan al-Shaybani, c'était des grands monuments du savoir et de la connaissance à leur époque. C'était des grands, grands, grands savants. C'est des gens, des grands savants, ils faisaient la fatwa. Mais dès qu'ils ont rentré à Abu Hanifa, ils ont dit, oulala, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils sont tous directement devenus ses élèves. C'était des gens à son niveau. Mais quand ils ont assisté à ces cours, ils ont dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils sont mis modestement. Ces gens-là n'ont atteint ce degré de science, non seulement par le savoir, et surtout par seulement le savoir, mais par leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par leur sincérité. C'est la sincérité qui te facilite le chemin. Qulul Imam Malik disait, « Ilmuna hadha, laysa bi kathrati riwaya, wala bi kathrati diraya, walakinahu nurun yaqdifuhu Allahu fi qalbi man yasha. » Notre science, ce n'est pas le fait de rapporter une quantité importante de hadith, etc. Mais c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala jettera dans le cœur de qui il veut. Si tu es sincère, et tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et tu cherches vraiment la vérité, ne crains pas. Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera le chemin. Mais si tu prends ce chemin-là, par orgueil, ou par le moi-je, tu n'arrêteras jamais. Tu peux écrire tout ce que tu veux comme ouvrage. L'imam Malik à son époque, c'était l'homme de science par excellence de tous les savants de son époque. Tout le monde reconnaît son autorité. Il allait écrire un ouvrage de référence en science de hadith. Son livre très célèbre, il s'appelle « Al-Muwatta », qui veut dire « celui qui facilite », le mot « mahid ». Or, à son époque, il y avait plein de chouyours et de savants qui ont écrit d'autres livres qui s'appellent « Al-Muwatta ». Donc, des savants sont venus lui dire « Cheikh ». Subhanallah, ton livre il est très crédible, il est d'une très grande autorité, tu lis dans le même titre, donne-lui un autre titre, pour qu'il soit ce qui marque sa spécificité. Donc les gens, ils vont voir, c'est le même titre, c'est comme si tu traverses au même niveau. Qala, ma kana lillahi dama wa tassal, wa ma kana li ghayri lillahi qata'a wa fasal. Il dit, bah, c'est pas mon problème, moi. Ce qui est écrit pour Allah durera, ce qui n'est pas écrit pour Allah, bah, je vais se vaporiser, moi, c'est pas mon problème. Allah se chargera de ça, de toute façon. Moi, je l'écris, je suis sincère. Ensuite, Allah, si Allah, si, il est, si ce livre-là, il est écrit pour Allah, il durera. Aujourd'hui, quand on dit le mot pas, vous avez entendu d'autres mots pas que celui de l'imam Malik? Il n'y en a pas. Bien, ils existent dans des manuscrits. Donc, il n'y a que celui de l'imam Malik qui est resté. Donc, le chemin, même le cheminement de chacun de nous, il faut qu'il soit un cheminement sincère. Si tu es sincère, et tu fais attention à l'ego, parce que l'ego, c'est le plus grand obstacle qui existe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand voile qui existe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il une place là-bas? Y a une place? Venez, y a une place ici. Sallallahu ala rasulillah. Alors l'ego, c'est le plus grand obstacle entre nous et Allah. Il faut toujours accepter l'autre comme il est. Il faut toujours respecter l'autre. Il faut toujours faire ses actes pour Allah, pas pour attendre une récompense. Parce que les gens, de toutes les façons, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith célèbre, Sidna Abu Dhar, qui est un des compagnons, sache que si toute l'humanité décide de te donner quelque chose qu'Allah azzawajal n'a pas voulu te donner, ils n'arriveront pas. Si toute l'humanité, de Adam jusqu'à la fin, la dernière créature, décide de t'enlever quelque chose qu'Allah azzawajal a voulu te donner, ils n'arriveront pas. Donc, ne te casse pas trop la tête. Fais ce que tu as à faire sincèrement et c'est Allah azzawajal qui décide des choses. On parlera de tout ça, inshallah, dans la croyance. C'est le cœur, parce que la croyance, croire à quelque chose, mais elle a un fruit aussi. On étudie la croyance pour comprendre comment devraient être nos comportements. Malheureusement, nos comportements aujourd'hui, comme dit le professeur dans un hadith, il viendra un jour où les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Avoir une sincérité dans notre cheminement, Allah Azza wa Jal nous facilitera le chemin. Par contre, si on démarre par notre ego et on ne reconnaît pas, on ne respecte pas l'autre même si on est divergent, on n'arrivera pas. Donc on a dit que l'imam Malik, deuxième école, c'est l'école malikite. L'imam Malik, rahmallahu ta'ala, il avait 900 cheikhs. Regardez, le premier, il avait 4000. L'imam Malik, il avait 900 cheikhs. Bien sûr, il a rencontré l'imam Abu Hanifa, c'était même époque. Ils ont même eu des débats, etc. Alors, il a 900 cheikhs, 300 ont étudié chez les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Si tu as, toi, un seul cheikh qui a étudié chez les compagnons du prophète. Hein? Tu serais dans les nuages. Subhanallah. J'ai appris chez quelqu'un qui a appris chez les compagnons. Alors imagine, tu as 300. Et 600 qui restent ont appris chez ceux qui ont appris chez les élèves des compagnons du prophète. Donc la première génération de ceux qui ont appris chez les compagnons, ensuite vous avez la deuxième génération. Donc c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Quand Imam Malik dit quelque chose, ou quand Imam Malik a fondé son école et a eu des disciples, et l'école, parce qu'au début, il n'y avait pas que ces quatre écoles, il y avait d'autres écoles. Il y avait l'école de l'imam al-Awza'i, c'est pas le bas de noter, mémorisez juste ça. Ceux qui veulent écrire, ils écrivent, mais j'aimerais bien que vous compreniez ça, cela. Vous avez l'école de l'imam al-Awza'i, vous avez l'école de l'imam Sufyan al-Thawri, vous avez l'école de l'imam Ibn Uyayna, vous avez l'école de l'imam al-Tabari. Tout ça, ce sont des grands monuments du savoir et de la connaissance de la jurisprudence musulmane qui ont existé à peu près au même moment, même siècle. Mais ces autres écoles-là, leurs disciples n'ont pas travaillé l'école, n'ont pas travaillé c'est-à-dire les idées et la jurisprudence du fondateur. Donc l'école, elle meurt, reste pas. Même dans les sciences aujourd'hui, philosophiques, sociologiques, si vous voulez, vous avez quelqu'un qui dit des idées, bon, si quelqu'un, personne ne suit son, Qu'est-ce qu'il dit? Ça reste des avis ensuite. Donc ces avis-là, si vous avez aujourd'hui quelqu'un qui vous dit, moi je suis l'avis des... Et même l'Auzari, ben, il dit n'importe quoi, parce que déjà on n'a pas, on ne sait pas, hein, comme dit le Cheikh Hawama et d'autres, les avis n'ont pas été travaillés. On ne sait pas si l'imam l'Auzari est revenu sur cet avis-là, etc. Par contre, dans l'école de Abu Hanifa, Imam al-Kishafi'i, Ahmed ibn Hanbal, on sait, c'est-à-dire les disciples nous expliquent, nous commentent les avis de leur maître, et les disciples des disciples travaillent les avis, etc., etc., surtout à travers les temps, parce que les temps changent et les situations changent, d'accord. Donc une école n'est pas travaillée par les disciples, elle meurt. Ce sont les quatre écoles qui sont restées à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Donc on a dit l'école malikite, vous avez aussi l'école shafi'ite. Alors, pour l'école malikite, elle se situe en Afrique, au Maghreb. Actuellement, ils sont majoritaires à peu près aux États-Unis, puisqu'il y a plein d'Américains convertis qui sont allés en Mauritanie pour apprendre. D'accord ? Hamza Youssouf et compagnie. Donc, ils sont allés en Mauritanie. Les Mauritaniens, quand c'est des malikites, donc vous avez l'école malikite qui est majoritairement, on va dire, je parle des Américains. Américains, je ne parle pas des Pakistanais qui sont partis là-bas, ou des Turcs, ou des Maghrébins. Non, je parle des Américains. Majoritairement, ils sont malikites. Les Espagnols aussi, vu leur proche du Maroc. Et en France aussi, en Belgique aussi, puisque la majorité, c'est des Maghrébins africains. Bien que vous avez des Turcs, Pakistanais, etc., qui sont des Hanafites, mais majoritairement, c'est des Maghrébins. D'où, nous, on suit l'école malikite en France. Donc, on a une grande partie, il y a une partie en Égypte qui est malikite. Hein. L'école malikite, elle a existé en Irak, mais à travers le temps, elle n'existe plus. Elle n'est plus. Et à l'origine, elle était à Médine. À l'origine, le fondateur, l'imam Malik, c'était à Médine. Ce sont des disciples qui sont partis en Andalousie, sont partis ailleurs, ils ont transmis la jurisprudence de leur cheikh, du fondateur. Elle n'existe plus, bon, on va dire elle n'existe plus à Médine. Hein. Avant, c'était l'imam de la grande mosquée de Médine, c'était toujours un malikite. Hassan al-Alawi Malik, il s'appelle Malik. D'accord. Depuis l'époque de l'imam Malik, pendant tous ces siècles-là, l'imam était toujours malikite. Et depuis 25 ans, 30 ans, il n'est plus, l'imam n'est plus malikite. Rahimallah, Cheikh Hassan al-Alawi malikite, il a été destitué. On a mis un autre imam. Il s'appelle Cheikh Hassan al-Alawi Malik, un grand savant. Alors, l'école, notre école, on a dit l'école shafi'ite, fondée par l'imam Shafi'i, qui était un élève de l'imam Malik. Naam. Oui, c'est vrai. Alors, Abu Hanifa. Al-Shafi'i. Non, on a dit Imam Malik. Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Donc, par ordre chronologique, hein, Abu Hanifa, l'imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Donc, Abu Hanifa et l'imam Malik, ils se sont rencontrés, il y avait des débats entre eux, etc. On a des arguments où l'imam Abu Hanifa rapporte des hadiths de l'imam Malik. Hein, je vais vous donner, Inch'Allah, les ouvrages. Il rapporte des hadiths avec Sanad. Et l'imam Shafi'i était élève de l'imam Malik. Pour l'imam Ahmed ibn Hanbal, donc il avait une relation avec l'imam Shafi'i. Le jour où l'imam Abu Hanifa est mort, il est né l'imam Shafi'i. Le jour même. Allah Azza wa Jalla, comment il fait les choses. Le jour où il est l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i est né. Alors ça, c'est les grands imams qui ont fondé des écoles, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc pour l'imam Shafi'i, donc il a étudié chez l'imam Malik, un de ses disciples. Il a fondé une école Shafi'ite, elle a ses règles, ses méthodologies, comme on a dit, etc. etc. Elle se situe actuellement en Indonésie, en Syrie, En Jordanie, en Égypte, aux Comores, oui, aux Comores aussi. Pour l'école, c'est bon pour l'école chaféite? Il y en a en Turquie? Oui, il y en a en Turquie, mais ils ne sont pas majoritaires. La majorité sont Ahnaf. Alors, pour l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors l'imam Shafi'i, j'ai pas dit quelque chose sur lui, aussi c'est un monument de savoir et de connaissance. D'ailleurs, on est un peu, nous les Malikites, on est un peu jaloux des Shafi'ites, parce que la plupart des grands savants, c'est des Shafi'ites. Donc, c'est-à-dire, c'est difficile déjà, c'est la plupart, hein, c'est tout ce qui vous... La plupart, c'est Ibn Hajar al-Asqalani, al-Suyuti, al-Ghazali, al-Bukhari. Vous connaissez l'imam Bukhari? Ah ben, il est Shafi'ite. D'accord? Beaucoup de gens, ils vont lire le Sahih al-Bukhari pour trouver des questions de fiqh. Eh ben, je suis désolé, c'est pas un livre de fiqh. C'est un livre de hadith. C'est une matière première destinée à des savants, pas à nous. D'accord? Il faut faire une différence. C'est pas n'importe quel livre qui est destiné à n'importe qui. D'accord? C'est pour ça que l'imam Ibn Rushd, quand il a écrit son ouvrage, Bidayatul Mujtahid, c'est-à-dire le commencement, le début de la recherche d'un Mujtahid. C'est-à-dire il est destiné au grand Mujtahid et au grand savant. C'est pas à notre niveau. Faire attention à que les ouvrages ils sont destinés à des niveaux. Chacun à son niveau. Ensuite, vous avez l'imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal, d'où l'école Hanbalite. Donc c'est le dernier, chronologiquement, et chacun de ces savants-là, il a sa méthodologie spécifique à lui. Elle est spécifique pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout dépend de qui il a appris, de la façon comment il a appris, de le lieu où il a appris, et des questions qui lui ont sont posées, d'où il y a une divergence de méthodologie. Aussi, vous avez donc l'école Hanbalite. Elle s'est située beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas, avant on l'appelait Bilad al-Hijaz. D'accord, c'est le Hijaz. Mais tout ce qui est actuellement Arabie Saoudite, Émirats Arabes, Bahreïn, Qatar, etc. Mais ça a été. Plus beaucoup maintenant. Actuellement, il y a des chouyours qui sont Hanbalites. Mais majoritairement, ils ne sont pas Hanbalites. Ils sont en dehors des quatre écoles. On va parler de ça un jour, Inch'Allah. Vous avez trouvé des Hanbalites aussi en Jordanie, mais ils sont minoritaires. Vous avez trouvé quelques Hanbalites aussi en Égypte, en Syrie, mais ils sont très minoritaires. Donc majoritairement, ils se situent en Arabie Saoudite. D'accord? Et il y en a un petit peu en Asie, mais très peu. Très peu. Donc voilà les quatre grandes écoles qui ont travaillé la jurisprudence musulmane à travers tous ces siècles. Quand on dit que ce sont des écoles qui ont travaillé la jurisprudence musulmane à travers tous ces siècles, donc on a quatre écoles dont 99,99 des savants appartiennent à une de ces écoles. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, était Hanbalite. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah était Hanbalite. Al-Qurtubi était Malikite. Ibn Hajar, Al-Suyuti, Al-Ghazali, tous étaient Shafi'ites. Ibn Qudama, Ibn al-Jawzi, etc. étaient Hanbalites. Al-Sarkhasi, Abu Yusuf, etc. étaient Hanafites. Oui. Non, c'est les fondateurs, ils ont fait des règles de la façon comment ils vont argumenter leurs questions. Donc c'est la méthodologie. Donc ils ont divergé parce que chacun se base sur une lecture du Coran. C'est toute une conférence hein, pour parler pourquoi et comment ils ont divergé. Donc il y a les lectures du Coran, il y a la question de la langue arabe, comment on fait ce qu'on appelle la grammaire arabe. D'accord? L'interprétation du texte. Hein. Ensuite, vous avez la question surtout dans l'argumentation. Il y en a un, vu que le hadith, pour lui, il est authentique, donc il le prend. Il y a un autre, il va discuter le hadith, si c'est un hadith rapporté par un ou deux compagnons, et qui contredit l'acte des gens de Médine, donc l'imam Malik donne la priorité. On a dit les gens de Médine, c'est qui? C'est les grands Sahaba, ils ont vécu à Médine. Ce sont ceux, les disciples des Sahaba et leurs disciples. D'accord? Donc s'ils ont une pratique, je vous donne un exemple simple. L'imam Malik nous rapporte dans le Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait comme ça. L'imam Malik qui le rapporte. Pour comprendre, hein, suivez-moi. Il rapporte dans le Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait comme ça.
Or, ce hadith, le Coran rapporte un hadith. Il faut voir combien de compagnons l'ont rapporté dans la première, deuxième et troisième chaîne de transmission. S'il y en a un ou deux dans une des trois premières, deuxième, troisième chaînes, on appelle un hadith ahad. C'est-à-dire il a un ou deux rapporteurs seulement. Dans les trois premières étapes. Donc, la méthodologie de l'imam Malik, il dit si un hadith n'est pas rapporté par un nombre important de compagnons, juste par un ou deux, dans la jurisprudence, et qu'il contredit l'acte des gens de Médine, je suis l'acte des gens de Médine et je laisse le hadith, puisque pour lui, l'acte des gens de Médine, aussi si la sunna, rappelez-vous, on a dit la sunna, c'est aussi ce que le prophète a fait. D'accord ? Donc, il donne la priorité à ce que le prophète a fait, puisqu'il est suivi par une majorité, à ce qui est rapporté par le prophète qu'il a dit, puisque c'est rapporté par un ou deux. Vous m'avez compris ? D'autres savants disent non, moi je prends la priorité à ce que j'ai comme argument de ce que le prophète a dit. Donc c'est une question de méthodologie. C'est un sujet très... des grands savants qui ont des ouvrages là-dessus. Oui. Il y avait des débats entre eux, hein, chacun avance son argument, etc. Non. Non, je ne peux pas. Non. Parce que si je commence à parler de ça, ça sera un cours à part. Ce n'est pas la vocation c'est pas la vocation du cours. C'est-à-dire, moi, juste vous dis qu'il y a quatre écoles, parce que notre cours, c'est la jurisprudence, comment y faire les ablutions, comment y faire la prière, comment, etc. Parce que ça, c'est un niveau un peu élevé. On discutera ça dans la deuxième année. Ils ont un cours de ce qu'on appelle au sol de fiqh, les fondements de la jurisprudence. Parce que c'est très pointu. Si je parle d'un sujet, il faut que j'approfondis. On va... Enfin, tenez. Donc, il ne faut pas sauter, je suis un chat. Non.
Au cours de l'histoire de l'islam, il y a pas eu des gens qui ont cherché à regrouper un peu ces écoles, disons, au niveau des méthodologies, pour faire une synthèse un peu des écoles. Est-ce que c'était un choix judicieux ou est-ce que
C'est-à-dire, quand on dit regrouper, il faut avoir le niveau. Parce que déjà, il n'y en a pas. Parce que ces grands savants, ils ont le niveau de ce qu'on appelle mujtahid. Mujtahid, c'est-à-dire, c'est un degré de grands savants très élevé. Pour être un mujtahid, il y a toute une liste de qualités dont il faut avoir. Alors cette liste de qualités n'a existé que sur une vingtaine de personnes et que quatre qui sont restées. Même aujourd'hui dans le monde musulman, quand on a une question dont il faut qu'un mujtahid nous donne la solution, et comme on n'a pas de mujtahid, on a inventé autre chose qu'on appelle le majami al-fiqhiyya. C'est-à-dire, on a un groupement de 20, 40, 50 savants qui vont se regrouper pour discuter une question. D'accord? Alors, regrouper, il n'y a pas l'intérêt de regrouper, parce qu'il faut, c'est à peu près votre question, c'est-à-dire à peu près c'est la même que le frère a donné. Parce que Cette divergence, c'est une richesse, parce que chacun d'eux, son argument, il est valable. Il est bâti sur quelque chose de solide. Même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé, pour répondre à la question du frère. Alors, puisque les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà du vivant du prophète, ils ont divergé sur des questions, et que le prophète a donné raison aux deux. Je donne un exemple banal. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qui étaient partis en expédition, quand vous revenez, vous priez la prière de l'Asr dans tel endroit. En revenant, donc vous avez la parole du prophète. On va voir comment les compagnons, chacun, comment il l'a interprété. Ça, c'est les compagnons du vivant du prophète. Mais en revenant, les compagnons du prophète, ils ont constaté que la prière, elle a son temps, la prière. On n'a pas le droit de retarder la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Pour des raisons majeures, etc. Eux, arrivés à un endroit, ils ne sont pas arrivés à l'endroit où le prophète leur a dit, vous priez la prière de l'As dans cet endroit. La prière de l'As allait sortir. Un groupe, ils ont dit, écoutez, la prière, le temps de l'As, elle va sortir. Il faut qu'on le prie maintenant. On va parler, Inch'Allah, dans nos cours, c'est quoi les temps des prières, etc. Ils ont dit, de toute façon, nous, on va prier maintenant la prière de l'As, puisque le temps, il va sortir. Bien qu'ils vont contredire ce que le prophète leur a dit. C'est ça la question. Le prophète leur a dit, vous priez l'As dans tel endroit. Donc leur compréhension, c'est prier dans cet endroit si le temps n'est pas sorti. C'est comme ça ils ont compris. Pas quand si le temps va sortir, priez là où vous êtes. Ne laissez pas la prière vous sortir. Le deuxième groupe, ils ont dit non. Nous, on ne cherche pas à comprendre. Le prophète, ce n'est pas le savant, ce n'est pas ceci, c'est le législateur. Il reçoit une révélation. Il nous a dit, prier la prière de Asbab, tel endroit, nous, on va la prier dans tel endroit. Même si le temps sort. Arrivés, tous les deux, ils sont arrivés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont exposé leur cas. Ils ont dit à Rasulallah, tu nous as dit, ne priez pas l'Asr que dans tel endroit. Mais le premier groupe, voilà, il a prié l'Asr avant l'arrivée, par peur que le temps sorte. Le deuxième groupe, non. Il a prié à l'arrivée et le temps était déjà sorti. Il leur a dit, tous les deux, vous avez raison. C'est une rahma. La divergence, c'est une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la umma. Ikhtilafu ummati rahma. La divergence de la umma, c'est une clémence d'Allah azza wa jalla. Pourquoi? Parce que supposons, on va regrouper les quatre écoles, ce qui veut dire, on n'aura pas quatre avis. Parce que déjà, quand vous avez quatre écoles, dans chaque école, vous avez des avis. Les regrouper, c'est-à-dire laisser un avis. Vous me suivez, mon frère? Laissez un avis. Alors, imaginez une législation qui reste figée sur un avis à travers une histoire, avec une... vous avez le monde musulman, s'il est vaste, géographiquement et historiquement. Donc, il y aura un haraj, une gêne pour la Ummah. Tu as cet avis ou... Non. On a des avis. L'imam Malik, le grand calife Harun Rashid, est venu lui dire... Écris-moi un livre un livre où je dois obliger tout le monde à le suivre. Il a dit non. Je vais écrire le mot ta, mais n'obligez pas tout le monde à le suivre. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a celui qui l'a rencontré une journée, il y en a celui qui l'a rencontré une semaine, il y en a celui qui est resté avec lui 23 ans, et tous ils ont pris des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, des ahad, etc. Ils ont divergé sur des questions, ils sont à travers le monde. On ne peut pas obliger les gens à suivre un seul l'imam. Omar ibn Abdel Aziz, comme on l'appelle, le cinquième calife, c'est un grand calife, très juste, c'est un grand savant aussi, il a dit, Alhamdulillah, que les sahaba, ils ont divergé sur ces questions-là. Il y a une chose très importante dont je voulais parler, bon, le niveau dont je parle, c'est la question du fondement de jurisprudence, hein, c'est pas la vocation du cours, mais ma liste pour que vous compreniez. Les textes dont ils ont divergé, parce que les textes sont deux genres de textes. On a des textes qu'on appelle en arabe qat'iyyat dilala, c'est-à-dire c'est des textes qui n'ont pas plus d'une seule interprétation. Ils sont clairs et nets et précis. Vous avez d'autres textes qui portent plusieurs interprétations. Ils ont divergé sur les textes qui portent sur plusieurs interprétations. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas divergé sur les textes qui ont une seule interprétation. Donc la divergence, elle est primordiale, elle est très importante. Et aujourd'hui, cette divergence, on voit pourquoi nos savants ont dit, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Bayhaqi, où il dit, ikhtilafu ummati rahma, c'est une clémence qui a dit cette divergence, où on a des questions aujourd'hui qui sont de l'ordre de notre vie d'aujourd'hui, par exemple le clonage, par exemple des questions qui concernent la finance, la bourse, des questions qui concernent le transfert d'organes, etc. On ne peut pas se limiter à un avis dans une école sur ces questions-là. On est obligé de voir tous les avis, qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc vous avez ce qu'on appelle le Majam' al-Fiqhiyya, c'est-à-dire le groupement des grands savants qui se regroupent. Vous avez 4 ou 5 ou 6 Majam'. Deux à Jeddah, un à Jeddah, l'autre à Riyad, vous avez un à Bahreïn, l'Imarat et l'Égypte, un. Donc ce sont des regroupements de 60-70 savants qui vont discuter ces questions-là. Il faut qu'ils nous donnent des avis. Et vous avez plein de savants qui sont malikites, ils n'ont pas la solution de ces questions-là que dans l'école hanafite. Pour ça que je disais tout à l'heure, l'intelligence de l'imam Abu Hanifa, il était très avancé par rapport à son temps. Très avancé. Il disait des choses à son époque, ils disent que ses élèves, ils savent qu'il ne dit pas n'importe quoi. Il sait très très bien où va l'évolution de l'homme, comment l'homme pense. Il a donné des règles et des idées et des fatwas. Indirectement, il dit, bon, ben, ça ne vous concerne pas, mais je sais pourquoi je l'ai dit. Aujourd'hui, alhamdoulilah, surtout en finance islamique, ils sont sont primordiales. Des questions très pointues. De l'imam Abu Hanifa a parlé, ça fait des siècles. À son époque, ils disent, mais tu racontes n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on les trouve. D'où Quand on appartient à une de ces écoles, ça ne fait pas dire qu'il est interdit de prendre de l'autre école. C'est pas interdit. Je suis malikite, mais je veux faire ma prière selon l'école hanafite. C'est autorisé, à condition de maîtriser la prière selon l'école hanafite, de ne pas mélanger. Du début jusqu'à la fin. Il faut que je la maîtrise. Il n'y a pas d'interdit. Mais faut m'inchallah. Donc c'est une... Rahama, c'est une clémence. Non. Donc, pour revenir à l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il connaissait par cœur et par chaîne de transmission 1 million de hadiths. 1 million. Je ne sais même pas si les ordinateurs d'aujourd'hui peuvent, avec les... Hein, avec les zip, maintenant, ça peut... Mais, il connaissait... Imaginez 1 million de hadiths, il n'avait pas ni CD, ni ordinateur, ni rien du tout. Hein. Tout est mémorisé dans sa tête. Et chaque hadith, il peut vous sortir n'importe quel moment avec sa chaîne de transmission et avec commentaire de chaque rapporteur. Il faut que, quand il rapporte un hadith, il faut connaître celui qui l'a rapporté. Comment tu peux vérifier que le hadith il est authentique ou n'est pas authentique? Il faut discuter la chaîne de transmission. Et pour discuter la chaîne de transmission, tous ces savants-là, on l'en fait. Il faut connaître chaque transmetteur. Il est honnête, il n'est pas honnête. Il est menteur, il n'est pas menteur. C'est quelqu'un qui il peut être honnête, etc. Mais c'est quelqu'un qui oublie, il n'oublie pas. C'est quelqu'un qui appartient à une secte égarée, peut-être qu'il peut nous faire glisser un hadith. Donc, il a une fiche de chacun des hadiths. Vous imaginez le nombre? 1 million de hadiths multiplié par le nombre de chefs de transmetteurs. Et ensuite, discussion entre les hadiths. Celui-là, il abroge celui-là, il spécifie celui-là, il est abrogé par le verset, etc., etc. Donc vous voyez que c'est une science très compliquée. Ce n'est pas facile de dire aux gens, oh tiens, moi, la question pour cette place, c'est cela. D'où tu tires ça? Tu maîtrises le Coran avec les différentes riwayat et qira'at. Tu maîtrises le Coran de sa relation avec le Coran al-Karim, qui spécifie l'autre, qu'est-ce qui est relatif, qui est venu avant l'autre. Tu connais la langue arabe pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la fatha ou la kasra pour nous dire ceci ou cela. Ensuite, il y a l'imam Ibn al-Qayyim rahmallah dans Zad al-Mi'ad, il rapporte une chose très importante, d'où le mufkiya a la priorité de faire une fatwa. Et ça, il le rapporte de l'imam Ahmed ibn Hanbal. On lui a dit, quelqu'un qui connaît 1000 hadiths, peut-il faire la fatwa? Non. 10 000, non. Il a commencé à le dire jusqu'à ce qu'il a dit 100 000. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. C'est une lourde responsabilité de parler de religion. C'est pour cela que nous, on se base sur des livres et des ouvrages de gens, et, c'est-à-dire de savants, qui ont reçu, c'est le produit de toute une école, des milliers de savants. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans un café, il écrit comme ça, je pense, non. Ce n'est pas pensé. Moi, ça me fait rire quand on répond aux gens, ils disent, oh, mais moi, franchement, c'est gênant. Parce que lui, il vit en Occident, tellement il est gobé, il est bouché par je pense, tu penses, nous pensons, vous pensez, il pense. On reste dans. C'est pas de la philosophie. Il oublie qu'il n'est pas. C'est pas philosophie ici. On n'est pas là pour penser. Bien sûr, on pense, on réfléchit. Mais c'est des textes, ils ont une méthodologie, comment on tire les commandements. L'autre, ah bon, c'est gênant, franchement. Bah, c'est gênant, qu'est-ce que tu veux? Va prendre un café, prends un jus d'orange, reste tranquille si tu veux. C'est gênant pour toi, mais pas c'est gênant. Parce que, quand on voit Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. S'il nous a donné un code de la route, comment nous devons marcher sur terre, c'est qu'il n'a pas tort. On voit l'humanité qui a voulu inventer une méthodologie et un code de la route, où ça nous mène. On voit le capitalisme avec les crises de subprime aux États-Unis et les grandes banques, comment elles sont tombées comme un château de cartes du jour au lendemain. On voit le communisme qui a soi-disant dit qu'il est venu pour rendre les gens tous égaux, comment il est tombé comme un château de cartes du jour au lendemain. On voit ce que l'homme peut faire à l'homme avec la première et deuxième guerre mondiale. Vous avez des millions de gens qui meurent bêtement comme ça, sauvagement. On voit la pensée humaine où elle nous mène. Alors il est temps de revenir à appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et l'humanité dans son histoire, c'est comme si vous avez un train. Vous avez des rails, vous avez un train qui est sur les rails. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier prophète, c'était Adam. Il l'a responsabilisé, il lui a appris le tawhid, etc. Voilà ce que tu vas transmettre à tes enfants. Au fur et à mesure, à chaque fois que l'homme, à travers la raison, sa psychologie, sa philosophie, veut comme l'homme il est, hein, qui veut trouver quelque chose, bien il est attiré par quelque chose, ou shaitan, ou nefs, etc. Donc il déraille. Donc c'est un train, il sort des rails, Allah envoie un prophète pour remettre ce train-là sur les rails. L'humanité, ou la tribu, ou le peuple marche un petit peu sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il déraille, il lui renvoie. Et c'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toute l'histoire, on va voir ça avec le prophète, à chaque fois il nous envoie un prophète pour nous remettre sur les rails, il nous montrer le droit chemin. Mefhoum, tu voulais poser une question, Akhi? C'est bon? Il y en a. Eux, ceux-là? Ah non, ceux-là, ils ont existé, ça fait 13 siècles. Hein? Ceux-là, ils ont existé, ça fait 13 siècles. Chauffe, Akhil Karim. Posez n'importe quelle question qui vient à l'esprit. Même si les gens sourient, etc. Sauf que, vous m'excuserez, j'aurais préféré que je ne serais pas interrompu à chaque fois. Je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de problème, mais. Essayez de patienter parce que vous aurez de toute façon les réponses au fur et à mesure que je parle. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain. Mais de temps en temps, si vous avez des questions qui vous embêtent, posez-les. Il n'y a pas de questions bêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deux genres de gens n'acquerront jamais la science. Un orgueilleux et celui qui a honte de poser la question. Naam ? Ibn Hanbal, naam. Oui. Oui. Oui, parce que lui, comme il était pas à l'époque du prophète, donc il est venu dans la fin du deuxième siècle, donc il est venu après la génération du compagnon, après la génération de ceux qui ont après, donc il était dans la quatrième, cinquième génération, donc il y a une chaîne de transmission, d'accord? Entre lui et le prophète, il y a 4-5 personnes, des fois 3 personnes, d'accord? Comment? Non. Non, ça c'est une question qui concerne le sens du hadith. Ça c'est une question qui concerne la science du hadith. Alors, à cette époque-là de l'imam Malik, il a commencé à rassembler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étudiant les chaînes de transmission. Juste après lui, on a une grande époque des grands imams de hadith, imam al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Des grands savants, ils ont dit, ils sont presque venus tous en même temps. Ils ont commencé à vérifier, authentifier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mettre dans des ouvrages. Pratiquement tous, vous avez entendu parler de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud. Tous ceux-là sont venus dans une période. Ils ont commencé à chercher, vérifier l'imam Bukhari. Il fait un voyage de 2 mois dans la neige. Il n'y a ni métro, ni avion, ni rien du tout. Il souffre pour trouver un hadith. Il a entendu que tel, il a un hadith. Il va vérifier, voir si cette personne, il va analyser sa psychologie, voir les gens, qu'est-ce qu'ils disent sur cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, est-ce que c'est quelqu'un qui mémorise, est-ce que c'est, et d'où il a pris. Il est allé prendre un hadith après avoir marché 2 mois dans la neige, dans le froid, etc. Quand il est arrivé à la personne, il a trouvé cette personne-là en train de il avait un cheval qui était perdu, il faisait à son cheval comme ça, pour soi-disant, il lui fait semblant qu'en vrai, il a quelque chose à donner à manger au cheval, et que le cheval, il a cru, il est venu. Quand il est arrivé, il a regardé, l'imam Bukhari, il a trouvé qu'il n'y avait rien. Le monsieur, il n'avait rien du tout. Donc il se moquait du cheval pour... Il a dit, celui-là, il se moque du cheval, je ne prends pas de lui un hadith. Hop, il a fait demi-tour. 2 mois. Donc c'est des gens qui étaient très, 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 très stricts dans l'acceptation du hadith. D'accord? Donc on a les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a des milliers et des milliers d'ouvrages. Et ces ouvrages-là, on trouve les chaînes de transmission. Et aussi, aujourd'hui, on a des gens qui rapportent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui jusqu'à Rasulallah, par chaîne de transmission. Ça existe. D'accord? Tu as 30, 40 personnes, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle Isnad al-Ali ou Isnad al-Nazil. Il y en a ceux, il te dit, entre moi et le prophète, il y en a 30. L'autre, il te dit, moi, j'ai 29. C'est-à-dire, il y a une concurrence entre les grands savants aujourd'hui, celui qui peut rapporter, c'est-à-dire, il y a moins de personnes. Mais faut m'inchallah. Bon, ça, c'est une question du sens du hadith. La différence entre qui, madame? La différence entre les cas d'école, j'ai dit... Oh, c'est un exemple de divergence, on va dire... chez les Hanafites, par exemple, les Hanafites, ils ne mangent pas tout ce qui est crustacés, c'est ça. crustacés, par exemple, ils ont leur argument. Ils ont pas. Bah, moi, je les taquine toujours. Je dis, bah, écoutez, vous avez perdu beaucoup de choses. Hein. Donc, ils n'ont pas goûté à ces choses-là. Ils ont leur argument pour que l'imam Abu Hanifa a interdit cela. Ou bien de la façon de la prière. L'autre, quand il descend avec les pieds, l'autre, il commence à descendre avec les mains. C'est-à-dire ce qui est recommandé, ce qui est. C'est rarement dans les choses qui sont interdites. C'est dans la recommandation, ou bien le déconseiller, etc. Mais faut me dire là, je donne un autre exemple. Vous savez qu'en islam, le fait que quelqu'un, le frère et soeur de lait, dans l'allaitement, si un homme et une femme ils ont été allaités par une femme, même si ce n'est pas des vrais frères et soeurs, ils n'ont pas le droit de se marier. Vous savez, en islam. D'ailleurs, aujourd'hui, même en Occident, hein, j'ai appris qu'ici, que s'il y a 10 cousins en France qui veulent se marier, il faut une dérogation du procureur. Donc j'ai découvert ça. Des cousins. Alors, en islam, s'ils ont été allaités, donc le professeur, est-ce qu'il nous parle d'allaitement? S'ils ont été allaités par une même femme, ils n'ont pas le droit de se marier, c'est des frères et sœurs de lait. Mais les savants, ils ont dit attention, ils ont goûté à combien de fois du sein? Ils ont été allaités combien de fois? Il y en a un, il dit, ne serait-ce une seule fois, mais avec, il a bien bu le bébé. L'autre, il dit, non, il faut que ça soit 5. Chacun argumente. Vous voyez, il y a des divergences sur ces questions-là. Donc on a dit, ça, finalement mon cours il s'est transformé en cours de, pas de théologie, hein, de jurisprudence. Je me suis retrouvé à, c'est une obligation, hein, c'est-à-dire pour comprendre point de vue méthodologique, nous devons passer par là. Naam. Comme ça là. Beaucoup plus. Il l'autorise. Oui. Oui, oui. On a dit, les savants, ils ont fait des conditions pour cela. C'est-à-dire sortir d'une école pour aller à une autre. Premièrement, on évite, c'est pas pour choisir la facilité. D'accord? Pas pour choisir. C'est-à-dire pour des raisons valables. Je vous donne un exemple. On va parler, Inch'Allah, quand on parlera des ablutions, de ce qui annule les ablutions. Chez nous, les malikites, les ablutions sont annulées quand quelqu'un veut toucher une femme par une intention de désir, veut la toucher comme ça, même la toucher comme ça, avec une intention de désir, même s'il n'a pas trouvé de désir, ses ablutions sont plus valables. Ou bien il l'a touché inconsciemment et il a eu du désir. Ses ablutions sont plus valables. Vous avez compris? Dans l'école hanafite, non. Du moment qu'il n'y a aucun liquide qui est sorti de l'homme ou de la femme, les ablutions, il les a toujours. Alors, imaginez dans le hajj. C'est les gens qui ont fait le hajj, le ramadan. Bah, tu ne peux pas éviter, tu es en masse, tu es touché par là. Comment tu vas refaire tes ablutions? Tu es en plein tawaf. Donc les malikites, ils prennent la vie là des hanafites. Je donne un autre exemple. Dans l'école malikite, une femme qui est en période de la ses règles, il lui est autorisé de réciter le Coran al-Karim. Réciter, pas toucher. Dans les autres écoles, non. Alors comment on fait si on a une femme qui est enseignante, elle donne des cours de Coran à l'université, ou bien, donc elle ne vient pas chaque 10 jours, 15 jours, 7 jours, elle va chômer, elle donne des cours de lecture de Coran aux sœurs. Donc, les grands savants aujourd'hui, Hanafite, Shafi'i, etc., ils ont pris l'avis malikite qu'il lui est autorisé, elle ne touche pas le Coran, mais elle le récite, elle le rapprend. Est-ce que vous avez compris? Donc on a, il y a des conditions, c'est-à-dire, c'est pas à outrance, comme ça, on se voit se balader, Hanafite, Shafi'i. Il faut maîtriser aussi, c'est-à-dire le hukm, ce qu'on appelle le commandement, dans telle école. Si je fais les ablutions selon l'école Hanafite, il faut que je sache ce qui annule, ce qui est bien dans l'école Hanafite, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Allez, dernière question, ensuite on va prendre une pause.
En tant que musulman, est-ce qu'on doit choisir une école et comment on doit la choisir? Est-ce que aussi on peut se baser sur l'école? Comment ça doit se passer?
C'est une obligation d'appartenir à une école. Premièrement, puisque tous les savants appartiennent à une école. Deuxièmement, si on n'est pas cadré dans une école, on est perdu. Troisièmement, ça a été la situation depuis 14 siècles. Et c'est la situation géographiquement aujourd'hui dans le monde musulman. Donc, tu es en France ou tu es maghrébin, tu es malikite. Donc, que tu le veuilles ou non, tu es malikite. Même si tu n'es pas malikite, tu es malikite par, comme disait Freud, par l'ordre de la masse. Donc il faut savoir, c'est-à-dire à qui on appartient géographiquement. Moi, je connais des Algériens qui sont hanbalites. Bah, il veut être hanbalite, tu ne vas pas lui dire non, tu es malikite. Bah, il est hanbalite, il n'y a pas de problème. Mais, afin de lui faciliter la tâche, de, comme il vit dans une société que tout le monde est malikite, ça lui facilitera la tâche. Mais ça fait bien aussi, ça fait joli aussi de voir des hanafis, des hanbalites, tu vois, dans une société qui ne sont pas... Quand même, c'est bien d'avoir d'autres avis, etc. D'accord. Mais ça fait lui... parce que lui, il va avoir des questions. À qui il va les poser? Moi, je connais un hanbalite, il vit dans une société de malikites. Quand il a des questions, il me dit, voilà, est-ce que tu peux contacter tel savant hanbalite? Je dis, tu nous rends la tâche difficile. Déjà, la fatwa, pour quelqu'un faire une fatwa, il faudrait qu'il habite... dans le lieu. Tu peux pas, toi, tu habites en Scandinavie, moi j'habite au Maroc, allô, voilà, j'ai... Ben, il faut vivre au Maroc, il faut connaître comment les gens vivent, c'est les conditions du mufti. Moi j'ai invité une fois en France un grand savant du Maroc, je lui dis, tu viens, on t'invite, etc., nos jeunes, ils ont des... Un grand savant, vraiment, une sommité. J'étais, subhanallah, pas choqué, mais je me dis, subhanallah, là, cette science... seuls les grands savants connaissent sa valeur. Il m'a dit, non, je ne peux pas venir. Il m'a dit, vous êtes là-bas, à votre niveau, vous avec les chiours qui sont là-bas, vous répondez aux questions. Moi, je ne connais pas la situation des gens en France, en Europe, comment aller, c'est-à-dire leurs contraintes de vie, etc. Parce qu'il ne suffit pas de connaître le hukm. Il faut connaître la réalité de la vie des gens. Parce que les ahkam du fiqh, le grand savant, ils ont parlé selon leur temps. Il y a de gros... C'est pour ça que les ouvrages, on a toujours des ouvrages. La question de faire, il faut l'adapter à son temps. Moi, j'ai étudié dans diverses régions, j'ai étudié dans le fond du désert, j'ai des questions de mes chouyours qui m'ont appris des choses, mais qui ne sont pas adaptables à la situation française. Donc avec la relation qu'on a avec d'autres savants du monde musulman qui viennent et qui en discutent sur des choses, et avec l'apprentissage de la science du fondement de Ossol, faire connaître les objectifs de la charia. Pourquoi l'islam a interdit cela? Pourquoi il a fait cela? On peut donner le hukm. C'est-à-dire, il faut que le hukm soit adapté à la réalité. Il ne faut pas qu'il soit contradictoire à la vie des gens. Parce que l'islam, comme disait un des grands compagnons du prophète, est venu sortir les gens du stress et de la vie pénible vers la rahma. Parce que si c'est une question de religion de contrainte, on ne veut pas de la religion de contrainte. On veut de religion qui nous met à l'aise dans une rahma. Tout en restant, bien sûr, fidèle au principe de la sharia, de l'interdit, etc. D'accord? Je vais même limiter à cela. Il est 11h moins 15. On va prendre 10 minutes de pause et on revient. Sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce qu'on a dit sur les catécoles. Et que nous, vous avez compris maintenant pourquoi on suit l'école de l'imam Malik. C'est tout ça pour vous dire qu'on est dans l'école malikite. Et qu'on a des grands savants qui ont travaillé cette école-là depuis des siècles. Et qu'il y a des ouvrages de référence qui ont été écrits à chaque fois par des savants pour leur situation, après avoir assimilé, appris de la science de la génération qui les ont précédés, et avoir compris les fondements et la méthodologie, comment tirer les argumentations, ensuite donner des fatwas à leur époque, et ils vont transmettre à leurs élèves qui vont faire la même chose à leur époque, etc. etc. Donc quelqu'un qui vit aujourd'hui, il va dire, ah tiens, l'imam Malik qu'il a dit tel sur cette question-là, il faut... comprendre pourquoi l'imam Malik l'a dit tel, dans quelle situation et pour qui, etc. Donc, aller directement à Muwatta, le livre de Fiqh de l'imam Malik, dire, voilà, tiens, il faut voir comment les commentateurs du livre de Muwatta, qu'est-ce qu'ils ont commenté, qu'est-ce qu'ils ont dit sur tel ou tel hadith, etc. Donc nous, ça sera, on va parler selon l'école malikite. Les grands savants de l'école malikite pouvaient noter, donc on a déjà le fondateur, l'imam Malik. Ses grands disciples, vous avez Ibn al-Qasim, vous avez aussi Ash'ab, d'accord? Vous avez aussi Ibn Wahb. Tout ça, c'est les grands disciples de l'imam Malik, il y en a d'autres, mais les grands, on va dire, les grands calibres, hein, les grands, ils sont connus, et il y en a plein d'autres. Hein. Alors, les grands ouvrages qu'on a de la première génération des livres de l'imam Malik, on va dire, que lui nous a laissé, il y a un livre de hadith qui s'appelle Al-Muwatta. Al-Muwatta, livre de hadith, hein, c'est le livre de l'imam Malik. Il a rassemblé tous les hadiths que lui a vérifiés et considère comme des hadiths authentiques. D'ailleurs, tous les savants qui sont venus après ont dit que c'est le premier ouvrage de hadith. Le hadith, c'est la sunna du prophète. Le hadith, c'est ce que le prophète a dit, a fait ou a autorisé. Rappelez-vous. D'accord ? Donc, que c'est le premier ouvrage de sunna authentique. D'ailleurs, il y a même une discussion qui est le plus authentique. C'est le Sahih Bukhari ou il y en a ceux qui disent c'est le Bukhari, il y en a ceux qui disent Muwatta. Bon, nous, en tant que malikites, bon, allez, hop, on va dire c'est Muwatta. Mais bon, mais en vérité, on va dire, il y a plein qui disent c'est le Bukhari, d'accord ? Il ne faut pas trop être non plus... Donc on a ce Muwatta, donc c'est un ouvrage de hadith, mais qui parle des questions de fiqh, etc. D'accord ? Alors, vous avez un autre ouvrage, à peu près de 4-5 tomes, celui-là, il est dans un tome, qui sont des questions des élèves de l'imam Malik, ils les ont posées à l'imam Malik, et que les disciples les ont rassemblées dans un ouvrage, qui s'appelle « La Mudawana ». La Mudawana. D'où la célèbre Mudawana au Maroc. Donc vous avez la Mudawana qui est une. On va dire. La rassemblée, les fatwas, ou bien les dires, ou bien les questions traitées par l'imam Malik, ce sont les questions-réponses, si vous voulez, rassemblées par les disciples de l'imam Malik dans ce grand ouvrage. C'est pour ça que vous avez le Mudawana, ils vont écrire imam Malik. En vérité, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais ce sont les questions-réponses. Des élèves à l'imam Malik. Oui. Ça, c'est, la Mudawana, vous n'allez pas la trouver en français, elle n'existe pas. Mais le Muwatta, je pense qu'il est traduit. Hein?
Il est traduit.
Mais ça, attention, je suis pas en train de vous dire ces ouvrages-là, allez-y prendre le fer de ces ouvrages-là. Alors là, c'est pas du tout la peine. C'est pas des livres à nous. Donc, je suis en train de lire seulement, je vous dirai. S'il y a des livres pour vous, c'est-à-dire des supports de livres de fiqh, je vous le dirai, Inch'Allah. Je vous citerai deux, trois ouvrages. Mais là, on est juste en train, c'est pour nous, pour savoir comment ça s'est passé, l'historique. Ça, c'est un livre qui a existé au deuxième siècle de l'Égypte. Vous avez, même les arabophones qui vont lire, ils vont pas comprendre grand-chose. D'accord ? C'est-à-dire que c'est des livres qui sont destinés aux savants de leur époque. Vous imaginez, c'est un livre qui a été destiné aux savants du deuxième siècle. Alors, nous, ça va être du chinois. Déjà, pour les arabophones, c'est du chinois. Mais bon, donc le Muwatta, il a été commenté, donc le livre de le Muwatta, l'imam Malik, c'est le hadith que l'imam Malik a rassemblé. Au début, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rassemblé tous les hadiths qu'il a pu entendre, c'est-à-dire des gens qu'il a rencontrés, etc., c'était 24 tomes au début. Donc il n'a cessé de filtrer, de vérifier jusqu'à ce qu'il ait resté un seul tome. D'accord ? Donc c'est le tome où il l'a authentifié. Ce sont les hadiths que lui, il considère comme authentiques. Mais, je rappelle toujours que ce n'est pas parce que le hadith il est authentique. Authentique, c'est-à-dire c'est sûr que le prophète l'a dit. Qu'on doit l'appliquer automatiquement. Donc les savants vont vérifier, bien sûr il est authentique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre argument plus authentique que lui ? Il est authentique. N'est-il pas spécifique ? Il est authentique. N'est-il pas relatif ? Il est authentique. N'est-il pas abrogé ? D'accord ? Il y a toute une science de ce qu'on appelle au solfège des fondements de la jurisprudence qui étudie ces hadiths-là. Donc c'est une matière première. Mais ça ne nous empêche pas de le lire, l'ouvrage, celui qui lise l'arabe et celui qui lise le français. Mais faites attention de ne pas tirer les commandements. Ou bien vous allez trouver ce qu'on appelle comme riyad salihin, c'est-à-dire des recommandations, il est bien de faire ceci, cela, il est bien de faire de telles vies, il est bien de telles pauvres. C'est des choses, des recommandations. Alors, ensuite vous avez les grands imams de l'école malikite. Vous avez l'imam Ibn Rushd, qui a écrit Al-Bayan wa Tahsil, un livre qui s'appelle Ibn Rushd, qui a écrit Al-Bayan wa Tahsil. Alors, Ibn Rushd, c'est pas le. Il y a deux Ibn Rushd. Il y a le grand-père et le petit-fils. D'accord ?
Donc c'est pas les mêmes. Donc Ibn Rushd vers l'ouest, hein, c'est pas dont on lui en parle ici. Lui, il a parlé vers l'ouest, le philosophe, il a écrit un autre livre. Le Bayan al-Tahsin, celui-là, il y a 7 tomes à peu près. On trouve de la jurisprudence de l'école malikite, etc. Alors, vous avez... Bayan al-Tahsin. Tahsil. Alors, vous avez aussi, dans l'école malikite, les commentateurs du Muwatta, parmi les grands commentateurs du Muwatta, ils ont commenté le commentaire de l'imam Al-Baji. Le commentaire de l'imam Al-Baji. Donc, il a fait un commentaire sur le Muwatta, c'est un commentaire très important. Tout ça, c'est en arabe. Hein. C'est juste pour vous, pour connaître un peu la chronologie, etc. Il a été commenté plusieurs fois, hein, le livre de Muwatta. Donc vous avez le Muwatta de l'imam al-Baji. Ensuite, vous avez d'autres livres, tels que les livres de l'imam Ibn Abdel Barr, Al-Kafi. Vous avez le Kafi de Ibn Abdel Barr. On ne va pas citer tous les ouvrages de l'école. Mais on va citer, parce que dans chaque école, vous avez, c'est très important ce que je vais dire, dans chaque école, parce que dans une école, vous avez des milliers d'ouvrages. Alors, comment on va faire? Même un arabe, enfin un aguerri, il est devant, dans l'école hanéfite, vous avez au moins 13 000 ouvrages de référence. Dans l'école hanéfite seulement, 13 000 ouvrages de référence. Comment vous allez faire? Donc, déjà, les lire, je ne sais pas combien ça va... Ça va faire combien d'années? Donc, c'est pour ça que le travail se fait par des savants. C'est eux qui connaissent l'architecture de l'école. Ce qu'a produit l'école. Où on est en haut? Et quel est le livre qui est, on va dire, la crème de l'école? Dans chaque école, on a un livre de référence dans l'école. Un livre de référence dans l'école. Dans l'école malikite, le livre de référence, il s'appelle Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil, si tu peux le faire. Mukhtasar, c'est-à-dire le résumé. Bon, ça, c'est les résumés. Hein. Le mot Mukhtasar, c'est les résumés. Le Mukhtasar de Khalil. Alors, ce livre-là, il a résumé l'imam Khalil. Il a résumé... c'est le livre par référence de toute l'école malikite. D'accord? Donc on peut trouver les avis de l'imam Malik, on peut trouver les avis de Shatibi, on peut trouver les avis de Ibn Abdel, on peut trouver tous les avis des grands imams, et qu'à chaque fois ils nous disent l'avis le plus retenu, c'est celui de Ibn Yunus, l'avis le plus retenu de l'imam Al-Lakhmi. Donc il nous ramène, si vous voulez, c'est la crème de l'école. Il a fait un travail colossal, immense, vraiment... c'est un grand travail pour nous résumer tous les avis dans l'école dans un seul livre. Alors, résumer tous les avis de l'école dans un seul livre, une tâche qui n'est pas facile. C'est-à-dire, normalement, on peut les résumer dans plusieurs ouvrages. Mais lui, il a fait une toute petite introduction pour dire, je ne vais pas perdre mon temps à dire tel il a dit. Donc ça va être un résumé. C'est-à-dire, quand je dis fiha, on arrête fiha, c'est-à-dire dans elle. Il est dans tel. Je veux parler de la Moudawana, je ne vais pas passer mon temps à dire Moudawana. D'accord? Etc. Donc il a sa terminologie propre à lui dont il a parlé dans l'introduction. Donc c'est un livre. Même si on le lit en arabe, si tu ne l'as pas lu sur un cheikh, tu ne comprendras rien du tout. Même si tu le ramènes le plus littéraire du monde. J'aime rigoler un peu avec les arabophones, les imams. Je lui demande juste de répéter la phrase. Juste lui dis, répète cette phrase. L'imam Khalil n'arrête pas à la répéter, alors la comprendre. Donc, c'est même pour un arabe, c'est du chinois. Donc, c'est un travail très condensé, très profond, très pointu et très solide. Les avis de toute l'école malikite résumés dans un seul livre, et bien sûr. Il y a plus de 100 commentaires du Mukhtasar de Khalil. Donc, l'imam Khalil, il reste quand même un savant, ce n'est pas tout ce qu'il a dit
lui, il a relevé ce que lui apparaît comme les avis les plus retenus, ou bien le plus pratique dans l'école malikite. Mais il y a d'autres savants qui disent, non, on n'est pas d'accord avec toi sur cette question. C'est pour ça qu'il a plusieurs commentaires, plus d'une centaine de commentaires de cet ouvrage. Et le plus célèbre de ces commentaires, c'est la Hashia de l'imam Dasouqi sur Khalil. Donc, pour vous dire, ne vous tracassez pas avec tout cela. Nous, on va prendre comme des petits débutants, des livres. Parce que c'est les gens, ils croient que le fiqh, il vient comme ça. Il va, mashallah, hop, il prend un livre de fiqh. Mais d'où vient le livre? Comment les savants, ils sont arrivés à là? C'est tout un travail de génération en génération. C'est pas du tout facile d'aller, hop, il va sauter les 14 siècles, directement au hadith, directement. Et le travail des siècles de gens qui ont fait cela, vous croyez qu'ils ont ignoré ces hadiths-là, ou qu'ils n'ont pas pris en considération? Génération après génération, ils voient, ils revoient, ils revoient les hadiths, ils revoient les paroles des sahaba, ils vérifient, authentifient, et ils nous sortent ce qu'il faut faire avec des argumentations bétonnées. Alors on a des ouvrages contemporains, de savants contemporains, parce que ces livres-là, ils sont anciens, ils sont très difficiles. On a deux ou trois ouvrages contemporains dont je conseille les arabophones à les acheter. Il y a le livre de le fiqh malikite avec argumentation, de l'Habib ibn Tahar. Ça, c'est en arabe. On a le livre malikite avec ce nouveau habib, Fithawbi al-Jadid, dont j'ai oublié l'auteur. Il fait 7-8 tomes. On a un autre livre avec argumentation qui d'un cheikh libyen, j'ai oublié son auteur. On a un ami, un chercheur algérien, il est en train de faire un travail très 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 intéressant aussi sur le fiqh malikite avec argumentation. Il a terminé le premier tome, il va le terminer, inchallah. Dans 2-3 ans, il a terminé l'ibadat, donc il lui reste 2-3 tomes à terminer. L'essentiel, on a un livre très intéressant, simple, malheureusement qui n'est pas traduit, Al-Khulas al-Fiqhiyya ala madhhab Sa'd al-Malikiyya. C'est-à-dire le résumé du fiqh selon l'école malikite, fait par un groupe de savants marocains, de Qarawiyyin, et qui répond, c'est une question-réponse. D'accord, on a plusieurs livres. Donc, Inch'Allah, nous, on va se baser sur des livres contemporains, simples, qui ont profité de toute cette production de ce qui a été dit à travers l'histoire, de tous ces ouvrages des grands savants. Et on va doucement, on va apprendre, Inch'Allah, doucement, dès le départ. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avoir l'intention de devenir savant directement. Tu n'es pas là pour... c'est bien d'avoir l'ambition de devenir savant, mais berja, c'est-à-dire il faut aller doucement, il faut apprendre, il faut connaître, il faut apprendre comment faire les ablutions, il faut connaître qu'est-ce qui annule les ablutions, il faut connaître comment faire la prière, comment on répare notre prière, comment on va jeûner, qu'est-ce qui annule notre jeûne, etc. Ensuite, toute cette pratique, il ne faut pas se limiter à des actes, il ne faut pas que notre pratique se limite à des actes. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans son livre « Ihya ul-Muddin », « Revivification des sens religieuses », il faut qu'il y ait, que cette pratique, elle a une âme. Sinon, notre pratique, elle sera vidée de spiritualité. C'est-à-dire que tu fais la prière, il faut qu'il y ait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais réparer ta prière, c'est bien. Tu sais comment la faire, c'est bien. Mais si elle est vide, cette prière-là, si tu la fais comme ça, comme si tu fais du sport, et tu vas, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut comprendre aussi que cette adoration a là un côté spirituel très important. Et c'est pour cela le hadith célèbre que nous Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, célèbre calife, nous rapporte un hadith très important et authentique, qui est ce hadith-là, il est la base même, dont se base les grands savants de l'islam pour nous dire, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comment il nous a tracé les grandes orientations des sciences religieuses. Alors, ce hadith, il se trouve un jour que Sayyiduna Jibril, l'ange Gabriel, hein, Jibril alayhi salam, venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prenait la forme humaine d'un des compagnons du prophète. Pourquoi lui, on ne sait pas, s'appelle Dihya. Alors, un jour, les Sahaba, Sidna Abd al-Mukhtab, entre autres, ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ni lire ni écrire. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord. Savait ni lire ni écrire. Est-ce que le fait de ne pas savoir lire et écrire, est-ce que c'est quelque chose de péjoratif ou bien c'est quelque chose de, comment on dit,
Amélioratif.
Allez, amélioratif. Ou bien c'est quelque chose, de, c'est-à-dire c'est quelque chose de positif. C'est péjoratif. C'est péjoratif de ne pas savoir lire et écrire. C'est vrai ou non? C'est péjoratif pour tout homme, hormis le prophète. Pour lui, c'est positif. Pourquoi? Parce qu'il a toute la science sans savoir lire ni écrire. Donc c'est négatif de ne pas savoir lire et écrire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tout le savoir et la science. Est-ce que comme ça seulement Allah lui a donné toute la science? Vous pouvez le lui donner Allah azza wa jal. Mais Allah nous a appris que la science, c'est par l'apprentissage. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Innama al-ilmu bit-ta'allum. La science, c'est par l'apprentissage. Alors il lui a consacré quelqu'un qui va lui apprendre la science. Allamahu shadidul quwa. C'est qui lui a appris la science? C'est l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les sciences. Et que la, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des sciences que Sidna Jibril n'a pas. On parlera de ce détail un jour. Donc l'ange Gabriel rendait visite, c'est lui qui a ramené la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, le grand calife, était assis. Tous ils étaient assis, c'est lui qui nous rapporte ce hadith. Il dit un jour, nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit un monsieur dont personne ne connaît parmi nous. Et eux, ils se connaissent, c'était un nombre limité. Les musulmans, de première époque, quand ils étaient à Médine, leur nombre, il n'était pas important. Il était limité, 1500. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du recensement. Ah, c'était l'un des c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup bien avant que des gens qui prétendent, ben là, on va parler un jour de ce que les musulmans ont fait et dont on ne parle pas. Les gens qui étudient, des universitaires parmi vous sûrement, qui ont fait l'histoire de la pensée, que ce soit l'histoire de la pensée philosophique, économique, ça me fait rire quand ce soit l'histoire de la pensée, tu as Tolbiac, histoire de la pensée économique. Donc quand parle, Platon a dit, Thalès a dit, hop, ensuite Adam Smith. 15e, 16e siècle, c'est-à-dire pendant 8 siècles, il n'y a rien à voir circuler, rien ne s'est passé sur ce monde-là. Il y a 8 siècles que les musulmans ont dominé ce monde-là, avec des grands penseurs en économie, en géographie, en sciences politiques, en jurisprudence, etc. Mais on n'en parle jamais. C'est ni Ibn Taymiyyah, ni al-Maqrizi, ni Ibn Khaldun, rien. Donc ce n'est pas objectif. Quand on parle de l'histoire de la pensée, il faut citer. Avec l'Ouest, on le cite dans la philosophie, avec l'Ouest, en plus on va un peu l'européaniser, hop, c'est pas Ibn Rushd, hein, on va essayer de... Avicenne, donc ça fait un peu une connotation, je sais pas, un peu... Donc, Sayyidina Abd al-Khattab dit, nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est rentré, personne ne le connaît parmi nous, et il ne porte pas de signe de voyage. Donc c'est bizarre. Personne ne le connaît, mais au moins, s'il portait des signes de voyage, on dira que quelqu'un qui vient du Irak, du Yémen, etc. Donc c'est déjà bizarre. Donc c'est quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rapproché jusqu'à ce qu'il s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est assis, il leur montrait aux sahaba comment on doit être éduqué, la façon de s'asseoir. Il ne faut pas venir parce qu'il y avait des bédouins, ils venaient directement, ils prennent le prophète. Il y a Mohammed, c'est vrai que des gens qui viennent de Arabes, ils viennent du désert, et les Sahaba, ils réagissent, ils sont fâchés quand ils voient des textes. Le prophète, c'est pas ça, je lui dis, laissez-le. Un qui vient, vous imaginez un bédouin, les Sahaba, ils sont en train de prier, ils viennent dans la mosquée, il va uriner, hachakou. Les Sahaba, ils sont, le prophète, regardez, subhanallah, la sagesse. Il a pris son burnous, il l'a couvert, il l'a dit, terminé. Quand il a terminé d'uriner, il lui a dit, ya ahi, mon frère, ça c'est un lieu propre, ça c'est un lieu de prière. On ne peut pas uriner, c'est des impuretés, etc. Il a ordonné aux sahaba de prendre du sable, de jeter, etc. C'est-à-dire, s'il lui a fait, ah, qu'est-ce que tu l'as, Hamar, qu'est-ce que... Il va partir, il ne va plus revenir. Da'wa ilallah. Faire la da'wa ilallah, ça demande une sagesse. Ça demande aussi, il faut supporter l'autre. Tu fais appel au chemin d'Allah. Comment tu peux avoir la haine? Tu détestes les gens et tu vas les appeler vers le chemin d'Allah. Ah, ces kofars là, ces mécréants là, alors là machin, moi je peux pas, s'il vient, moi je vais le frapper. Subhanallah. Les sahaba, les compagnons du prophète, ils ont ouvert les cœurs des gens avant d'ouvrir leur pays. Il y a des pays où les sahaba, avant d'arriver, les gens ils sont déjà convertis. Tellement ils vivaient dans une position où c'était les Romains ou les Byzantins qui dominaient, il y avait... Tellement c'était des, ils les considéraient comme des esclaves d'Égypte, etc. Et quand ils entendent comment les musulmans se comportaient avec les autres communautés, ces gens-là, vous savez, en Indonésie, en Malaisie, les pays, il y a 400-500 millions de musulmans là-bas, peut-être plus, ils ne sont pas convertis par, comme on dit, les musulmans, ils rentrent avec l'épée, non, je suis désolé. C'est les comportements des musulmans qui étaient en Madagascar, qui étaient en Comores, qui faisaient du commerce avec eux, qui ont fait convertir ces gens-là. C'est un comportement qui est le meilleur message. Parce que parler, tout le monde sait parler. Mais il faut que ce qu'on parle concorde à notre comportement. C'est très important. Un grand savant allemand, un grand chirurgien, il a dit, Dieu merci que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Donc, ça fait tout dire. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, Sayyidina Amr al-Mukhtar nous dit, ce personnage vient s'approcher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit devant lui, il lui pose des questions. Qala Muhammad akhbirni an al-islam. C'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Et les sahaba, ils écoutent. An tu'mina billahi, afwan, shahadatu an la ilaha illallah, que tu dis, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah. Une idée, que tu reconnais que tu fasses la prière, que tu fais le jeûne, que tu fasses l'aumône, et que tu fais le pèlerinage si tu as les moyens et que tu peux. Un moyen de point de vue santé, argent, etc. Celui qui pose la question, il lui dit, tu as raison. Alors les sahaba, ils disent, on est étonnés, puisqu'il lui pose la question, et il est censé de ne pas connaître la réponse. Mais le prophète, quand il lui répond, il lui dit, tu as raison. Donc il est censé de connaître la réponse. Il lui pose, remarquez, la première question, c'est quoi l'islam? Premier pôle. Deuxième question, c'est quoi la croyance? قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. C'est de croire, تؤمن بالله, تؤمن بالله وملائكته. C'est de croire en Allah, aux prophètes, aux anges, aux livres qui ont été révélés, et croire au destin et la prédestination. Agla, on traduit. Qadar ou qadar. On parle, inshallah, c'est quoi le destin et la prédestination. Celui qui a posé la question lui dit, Sadart, tu as raison. Et ça, c'est le deuxième pôle. Donc, on a le pôle de la jurisprudence, l'islam. On a le pôle de la croyance. Et le troisième pôle, c'est quoi? Qala akhbirni anil ihsan. On traduit par bienfaisance, mais bon, je ne sais pas si c'est l'ihsan. Qala an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur me répond, il lui dit, c'est quoi l'ihsan? C'est quoi bienfaisance? Mais j'aime pas ça, mais bon, c'est ce qu'on traduit comme ça. Il lui a dit, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu le vois, mais si tu ne le vois pas, sache qu'il est en train de te voir. Donc il lui trace deux degrés de spiritualité, parce que la question concerne la spiritualité. Il y avait une question qui concerne la jurisprudence, il y a une question qui concerne la croyance, il y a une troisième question qui concerne la spiritualité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être musulman, un vrai musulman, d'avoir une bonne croyance, si la jurisprudence ne suit pas, qui est la pratique, et si cette pratique pas, elle est sincère. Donc il faut trois grands pôles dans la religion musulmane, à savoir la croyance, la jurisprudence et la spiritualité. Aujourd'hui, rarement on voit dans les mosquées parler de spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Le prophète a tracé deux. Il a tracé l'échelle la plus bas et l'échelle la plus haute. Et entre deux, on a des degrés. C'est-à-dire, il lui a dit, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. C'est un niveau trop élevé. C'est vrai, très 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 élevé, excusez-moi. D'adorer Allah comme si on le voit. D'accord? C'est-à-dire, vraiment, c'est voir à la foi. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il est en train de te voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a la certitude que Allah est en train de le voir, est-ce qu'il commet des péchés?
Quel déjà, si tu vois, oh, l'autre est en train de me voir, je ne fais pas de péché. Alors, juste un ami. Alors, que dire Allah, la certitude qu'Allah est en train de te voir. Donc, le prophète a parlé ici de la spiritualité. Appelez-la spiritualité, appelez-la soufisme, appelez-la, comme dit Saïd Hawa, c'est-à-dire tout ce qui concerne, comme dit Abu Hamd Ghazali, comment nous devons purifier notre ego et comment nous devons cheminer spirituellement. Alors, vous avez beaucoup d'ouvrages sur ces questions-là. Le meilleur par excellence, c'est celui de Abu Hamd al-Ghazali, hein, revivification des sciences de l'islam. Et vous, il y a plein de livres sur ces questions-là de spiritualité. L'imam Abu Hamd al-Ghazali relève que les maladies de l'ego, ce sont de 566 maladies. 566 maladies. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui est, comment dire, le kibr, c'est-à-dire tout ce qui est l'avarice, tout ce qui est jalousie, le hasad, la haine, toutes les maladies des cœurs, parce que ces maladies-là, on ne les voit pas. Et ces maladies-là sont pires que les maladies extérieures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il y a une chair en l'homme. Si elle est bonne, tout le corps elle est bien. Si elle n'est pas bonne, tout le corps n'est pas bon, c'est le cœur. Quand on dit le cœur, c'est pas ce cœur-là. Hein. Vous êtes musulman, vous faites une greffe d'un autre cœur, vous restez musulman. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc c'est quelque chose de métaphorique. On va parler, Inch'Allah, de cela. Le cœur, la raison, l'aql, etc. C'est pas... D'accord. Donc, il y a la croyance, la jurisprudence et la spiritualité qui devraient... c'est-à-dire, les trois, il faut qu'ils soient présents. C'est-à-dire, tu dois avoir une bonne croyance... Mais c'est insuffisant, c'est, tu te dis, moi j'ai une bonne croyance, ah, tu dis, pourquoi tu fais
l'iman fil qalb.
La blague, tu pourras pas. De toute façon, moi, ma foi, elle est dans mon cœur. Moi, d'accord, elle est dans ton cœur, alhamdoulilah, c'est bien, machin. Mais et la prière, et le jeûne, et l'aumône, etc., etc., et l'interdit, pourquoi tu fais les interdits, pourquoi tu fais parce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire. Ça, c'est la jurisprudence. Ensuite, on a, tu fais les choses pour qui? D'accord, tu fais la prière, mashallah, il vient, bonne contora, mashallah. Dès qu'il vient un groupe de musulmans, Allahu Akbar. Il fait pour les gens. Non, fais-le pour Allah. Fais-le pour Allah. Donc ça, c'est un cheminement, c'est une éducation spirituelle qui ne se fait pas du jour au lendemain. Une sœur me parlait tout à l'heure, elle m'a dit, je lis les ouvrages d'Ibn Arabi, etc. Il y a Ibn Arabi, il y a d'autres, mais ils sont très difficiles, les ouvrages d'Ibn Arabi. Moi, j'invite les frères et sœurs à lire un peu à Eva Dimitri Maïrovitch, bon, son nom il est un peu bizarre, une ancienne déportée, musulmane, elle est morte à 86 ans, elle écrit des ouvrages excellents, excellents. Vous avez Chodkiewicz, tous, c'est d'Europe de l'Est, et sa fille aussi, j'ai oublié son nom. Et vous avez plein de livres qui sont traduits, alhamdoulilah, hein, des livres de Ghazali, de l'imam Al-Jilani. Vous avez le livre des ouvrages du Cheikh Al-Alawi, Sagesse Céleste, très intéressant, Sagesse Céleste, décevant. Donc il y a plein de livres qui parlent de spiritualité. Ils sont très importants. Naam. Oui.
Est-ce que la religion, ça commence d'abord par la spiritualité, pour ensuite s'orner de la croyance et de la...
Très bonne question. Très très bonne question. C'est les trois en même temps. On en a aujourd'hui des gens, moi j'ai rencontré des gens, et tu dis, écoutez, moi spirituellement, on ne sait pas dans les... Il est où, hein, donc déjà, pour lui, il est... C'est comme, pour moi, c'est comme s'il fume, hein, et, il vous dit, je suis dans la spiritualité. C'est un peu de bouddhisme, hein, tu vois. Donc il est de le boum, il reste dans le... Les trois en même temps, c'est-à-dire croyance, pratique et spiritualité. Parce qu'on entend aujourd'hui des gens sous-estimer la pratique de l'islam. Ils sous-estiment comment les musulmans s'habillent, ou bien comment ils pratiquent leur religion, ou bien les athées sur ces points-là, des gens qui prétendent être spirituellement très élevés. On ne peut pas avancer spirituellement, comme dit l'imam Malik, dit une parole très intéressante. Il dit, celui qui pratique le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, sans spiritualité, c'est-à-dire il devient pervers. Mais celui qui suit la spiritualité, il néglige la jurisprudence, devient zindir, hein? Hérétique. Et celui qui rassemble les deux, il est vraiment dans le droit chemin. Donc il faut suivre le chemin par faire la pratique, mais il faut aussi qu'il y ait une spiritualité. Notre problème aujourd'hui, je suis désolé de le dire, dans le monde musulman, on a un grand problème sur les questions spirituelles. C'est quoi la spiritualité? C'est l'éducation. Tous les grands stratèges aujourd'hui qui font les plans de développement pour les pays, ils vous disent tout commence par l'éducation. Si vous pouvez avoir tous les plans économiques du monde que vous voulez les meilleurs, mais si vous avez une génération qui n'est pas éduquée, vous ne pouvez rien faire. Par contre, avec une génération qui est bien éduquée, qui sait où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, elle applique ce qu'elle fait, elle arrivera. Donc l'éducation, elle est très importante. Mais c'est pas, quand on dit éducation, c'est pas... c'est bien de savoir comment s'asseoir, comment boire, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Donc il y a une portée, c'est une question de l'âme. C'est très 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 profond. Donc lisez les ouvrages dont je vous ai cité quelques-uns, je peux vous ramener une liste si vous voulez, inchallah, d'ouvrages qui sont dans la vente. Et lisez le Coran al-Karim, vous voyez dans le Coran Allah Azza wa Jal comment il nous parle des communautés qui nous ont précédés, il nous dit faites attention, regardez l'argent, qu'est-ce qu'il a fait à ces gens-là quand ils l'ont considéré comme objectif, pas comme moyen. Faites attention à ne pas faire ceci, cela. Les maladies de l'ego sont les pires des maladies. J'ai commencé le cours ce matin en vous disant que le plus grand voile entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire arriver à sa satisfaction, c'est notre ego. L'homme est là, toujours il dit c'est l'autre. Ah mais c'est lui, ben, commence par toi. Donc c'est toujours l'autre. Donc il faut se dire de temps en temps que, c'est-à-dire c'est nous, c'est-à-dire parce qu'il aime toujours pour lui, c'est-à-dire, tu vois, les autres, c'est... Or, c'est pour ça que j'aime moi les soufis, je les aime bien, parce que c'est des gens qui pensent toujours aux autres, et eux, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait un cheikh qui nous dit, soyez comme l'eau. L'eau, où tu le mets, il cherche directement la descente. C'est vrai ou non? Tu le mets, il cherche directement à descendre. C'est-à-dire, il veut se mettre modeste. Alors Allah Azza wa Jalla lui a dit, tu veux être modeste, moi je vais t'élever. Vous allez à l'arbre, en haut, vous coupez, vous avez l'eau. Allah, il est là. Et ne soyez pas comme le gaz, dès que tu le mets, il veut monter. Et il monte ensuite, on ne le trouve pas, il n'est rien du tout. Donc, l'imam Malik, une fois, il y avait le calife qui est rentré dans son cours. D'ailleurs, il lui a demandé, il lui a dit, tu viens chez moi pour donner un cours, je veux que j'entends tout ce que tu dis, etc. Il lui a dit, la science, on vient vers elle, c'est pas la science qui va vers les gens. Donc, il est venu, le calife. Il est venu assister au cours de l'imam Malik. Ils lui ont mis une grande chaise comme ça, il est assis. Tout le monde par terre que. Un hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man tawadha'a ila Allah rafa'a. Il ne lui a pas dit, toi calife, écoute. Directement, il a ramené un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se. Tawadha'a, celui qui se met. Se met modeste, Allah Azza wa Jal l'élève. Il a compris qu'il parlait de lui, il a enlevé la chaise, hop, il se met par terre. Donc, la science, elle a ses caractéristiques. La sincérité, la modestie. Je vais me limiter à cela, Inch'Allah. Inch'Allah, nous on reprendra, Inch'Allah, la semaine prochaine, et ça sera, Inch'Allah, de la théologie. Donc, bien que j'aime pas ce mot-là, comme je le dis, donc je dirais, c'est la croyance, allez. Ou tawhid, ou bien usul al-fiqh, usul al-din, ou bien al-fiqh al-akbar. D'accord? Donc, on étudiera, Inch'Allah. C'est quoi la croyance en islam? Qui sont les fondateurs de cette science? Comme on a eu des fondateurs de la jurisprudence, il y a des fondateurs de la science du tawhid. Et pourquoi il y a des savants qui font que c'est eux les fondateurs d'une science? D'accord, c'est très important, on n'a pas parlé de ça. À chaque époque, parce que le fiqh, pour répondre à une question de nos frères, le fiqh existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il apprenait les sahabas comment on fait le wudu, le salat, etc. D'accord? Mais à un moment donné, il y a des savants qui lui ont fait des règles à ce qui a été appris à l'époque du prophète. Donc ceux qui lui ont fait des règles, ils portent le nom. Les lectures du Coran. On a lecture de Hafs, on a lecture de Warsh, on a lecture de Qamboul, on a lecture de Ibn Kathir, on a lecture de Kassai, il y a plein de lectures. Ces lectures-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ces lectures-là. Sinon, d'où elles viennent? Le prophète lisait ces lectures-là du Coran. Mais pourquoi ces lectures-là portent le nom de savants qui sont venus après? C'est-à-dire que les lectures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, ils apprenaient oralement aux sahabas. Mais à un moment donné, il y avait des savants, par peur que ces lectures-là vont disparaître, ils leur font des règles. Et une fois que le savant lui fait à cette lecture des règles, etc., elle porte son nom. Vous avez compris? Donc c'est pour ça, on dit, est-ce que La même chose pour l'imam, on va voir, Abou al-Hassan al-Ash'ari, Abou Mansour al-Maturidi, ils n'ont pas inventé la science du tawhid, mais la science du tawhid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawhid lui-même, le tawhid, que le, la croyance que le prophète a appris aux sahaba, à un moment donné, quand il y avait des groupes et des sectes et des philosophies qui sont entrés dans le monde musulman, afin de préserver la croyance des gens, ils ont fait des règles. Afin, et en faisant ces règles-là, de la façon comment nous devons apprendre le tawhid du livre saint et de la sunna, ils ont, cette science, elle a pris le nom du fondateur, d'où les Ash'arites, c'est-à-dire parce que le fondateur, il s'appelle Abou Hassan al-Ash'ari, sinon c'est les sunnites. On a dit les malikites, c'est les sunnites, Shafi'ites, parce qu'ils suivent le nom du fondateur. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره وقدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم